Hello Cécile.
Salut Greg, ça
Eh ben
va?
écoute, ça me fait plaisir de recevoir la nutritionniste des champions, comme t'appelles tes athlètes et comme c'est marqué sur tes réseaux et tout. Moi, je t'ai découvert surtout par Instagram. On a des connaissances en commun, mais c'est surtout à travers Instagram que j'ai découvert ton travail. Plus de 2500 pesées validées.
Oui.
Alors dis-moi, on va parler évidemment de nutrition, on va parler aussi de ton parcours d'entraînement, d'arts martiaux, de sport de combat, tout ça. Mais comment ça t'est venu l'idée de te spécialiser vraiment sur la nutrition, on va dire des combattants, on va même pouvoir aussi définir pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est le cutting, qui n'est pas une simple perte de poids d'une personne lambda. Donc voilà, on va commencer un petit peu sur ça.
Ok, ça marche. Bon, mais déjà, merci de m'avoir invité. On avait échangé déjà l'année dernière, mais bon, c'était un peu compliqué dans nos temporalités respectives. Donc, je suis ravie vraiment que tu m'aies invité. Alors, pour répondre à ta question, je n'étais pas du tout prédestinée à faire ça. Alors, j'ai commencé les sports de combat toute petite, les arts martiaux précisément. J'ai commencé par le karaté, voilà, à partir de mes 5 ans, officiellement sur le passeport sportif, mes 5 ans, mais je crois que j'y étais même avant, puisque bah, pour la petite anecdote, mon papa était prof de karaté pendant des années.
Il t'a transmis cette passion, ça c'est cool. J'espère pouvoir faire pareil avec mes filles.
Bah écoute, je te le souhaite parce que c'est voilà, c'est des vrais moments, des vrais moments de vie qu'on a eu en compétition quand je passais mes grades. Enfin, c'est des très beaux souvenirs. Mais si tu veux, moi, mon objectif professionnellement, il était vraiment dans autre chose. Moi, j'aimais les études, j'aimais le sport, j'aimais faire la compétition, etc. Mais jamais, 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 j'avais envisagé de le faire dans une dimension professionnelle. Même en tant qu'athlète, déjà, j'avais pas le niveau. Clairement, il faut des qualités physiques que je n'ai pas. Enfin bref, et même en tant que staff. Donc moi, si tu veux, j'ai fait des études supérieures, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait un diplôme en histoire, je crois que je te l'ai mentionné. Je suis diplômée en latin médiéval, le truc qui ne sert à rien.
La meuf qui veut pas arrêter les études, en fait. Tu me disais que tu as fait
Ouais,
genre
j'adore
bac
apprendre.
plus 12, quoi.
Et à la finalité, j'ai terminé quand même sur des études de commerce. Donc, j'ai fait un master en marketing, en gestion d'entreprise, en négociation industrielle. J'ai fait mes premières armes, enfin, pendant presque une dizaine d'années, hein, au cumul, dans le monde de l'ingénierie commerciale. Et puis finalement, j'ai fait une reconversion professionnelle, donc qui est venue vraiment par hasard. Quand j'en parle, quand je raconte cette anecdote, vraiment, à chaque fois, on me dit, mais Cécile, t'es une allumée. Parce que moi, je suis très très sérieuse quand je travaille, justement très rigoureuse. Et là, en fait, donc l'anecdote, c'est qu'à l'époque, donc j'ai fait 20 ans de karaté dans le sud de la France. Je suis mutée en région parisienne dans le cadre de mon activité professionnelle. Et ça a été très dur pour moi de retrouver un club de karaté, puisque j'avais grandi dans mon club initial. Donc, des collègues de boulot m'ont parlé du Krav Maga. J'avais déjà entendu parler de ça. Donc, je me suis dit, allez, je vais tester le Krav Maga. Et donc, avec ce club, on est parti faire un stage en Israël, forcément. Et je suis dans un bus. On revient d'une visite, puisque le matin, c'était entraînement. L'après-midi, c'était tourisme. Et je suis dans un bus et je vois un coach sportif. Je comprends que c'est un coach sportif qui donne un cours en extérieur. Et je le dis tout le temps, hein, ça m'a donné un sentiment de liberté absolue. Je me suis dit, oh, c'est ça que je veux faire. Et le problème avec moi, c'est qu'une fois que la graine, pardon, elle est plantée dans ma tête, c'est dur de la retirer. Et donc, en fait, j'ai tout banalisé, c'est-à-dire que j'ai fait un congé individuel de formation. J'ai fait un BPJEPS, donc en reconversion professionnelle, j'ai fait un BPJEPS AG2F à l'époque, en double mention à l'INSEP. En parallèle, il faut savoir que je fais cette reconversion professionnelle, c'est un peu avant mes 30 ans. Je suis pas encore maman, mais c'est un souhait que je voulais avoir. Donc je me suis dit, bon, je me vois pas coach avec un gros bidon. Enfin, et puis je ne connaissais rien au fitness. Je n'avais fait que des sports de combat. Donc je débarque dans un univers. J'ai jamais mis les pieds dans une salle de muscu. Un sketch. Cette reconversion pro, c'est un sketch. C'est la vie qui m'a appelée, en fait, tu vois. Et donc, en fait, je me mets à la diététique uniquement en deuxième choix. si tu veux. En deuxième option, en me disant, bon, quand je ne pourrai pas faire les cours particuliers, au moins j'aurai cette dimension, cette deuxième casquette en nutrition. Donc vraiment pur hasard. Et il s'avère que je me passionne pour ça. Mais vraiment, la boîte de Pandore. Vraiment, je me passionne et pour la prépa physique, bien entendu, j'adorais ça, et pour la nutrition. Et pourquoi, donc, pour tout ce contexte pour arriver à la réponse à ta question, pourquoi les sports de combat? Ben vraiment naturellement, parce qu'en fait, je n'ai baigné que dans ça depuis petite, même si c'était toujours en parallèle de mon quotidien, mais ça a toujours été ça. Il s'avère que lorsque je passe mon BPJEPS à l'INSEP, j'arrive du côté ouest de la région parisienne et je poursuis le Krav Maga dans une salle qui à l'époque s'appelait le CrossFight, qui est devenu aujourd'hui le MMA Factory. Donc je côtoie beaucoup d'athlètes. J'ai une relation proche, puisque j'ai été en couple pendant des années avec Fernand Lopez, le responsable du MMA Factory. Et donc, tout ça mixé fait que j'ai eu une proximité plus rapide avec les athlètes qui m'ont fait confiance pour leur prise en charge. Et là, la passion que j'avais développée pour la nutrition, très naturellement, au sport de combat, elle est venue parce que je comprenais les athlètes. Moi, j'ai 15 ans de compétition derrière moi. Alors, j'ai pas fait du haut niveau, mais c'est vrai que je les comprenais. Je voyais que c'était catastrophique ce qu'ils faisaient.
Mais tu faisais de la compète combat ou de la compète kata?
Les deux.
Les deux.
Moi, je viens d'un club très tradi et le karaté, c'est... Alors, sachant que le kumite, donc le combat de l'époque, puisque bon, ça date un peu, c'est pas celui d'aujourd'hui. Mmh. Il y avait les frappes un petit peu plus appuyées, alors pas autant que... Aussi de l'époque de mon père, où là, ça allait au chaos.
Les
mais on avait des
frappes
plus appuyées. Et j'aimais ça. Et j'adorais le kata aussi pour le côté, vraiment la précision, la technicité, la maîtrise complète de son corps, en fait. Et j'ai toujours appris le karaté avec cette, j'allais dire dualité, mais non, cet équilibre, finalement. Voilà. Et donc, la nutrition des sports de combat, si tu veux, ça s'est imposé à moi parce que, en parallèle que je développais cette passion, cet engouement, j'ai réalisé que j'étais douée dans ça, qu'il y avait un vrai besoin. Et moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir créé mon métier. Alors, tu m'as présenté comme nutritionniste des champions. J'ai mis des années avant d'assumer ce surnom. Effectivement, ce sont les athlètes qui me l'ont donné. Mais moi, voilà, j'ai compris que j'étais douée dans ce que je faisais. Et surtout, j'ai voulu créer des process, si tu veux. Parce que dans le MMA, on n'est pas sur les mêmes leviers que dans le judo, que dans le karaté, que dans le K1, que dans le Muay Thai. Et donc, pour chaque discipline, j'ai créé des process, si tu veux, pour pouvoir être au plus juste, me rapprocher de façon la plus juste possible des besoins des athlètes.
Alors, je reviens juste en arrière. Tu dis que tu vois ce coach qui donne cours en extérieur. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Pourquoi est-ce que tu as réussi un peu à comprendre qu'est-ce qui fait que ça a eu un tel impact sur toi de te dire « Allez, je vais faire ça et je vais en faire une reconversion professionnelle » alors que, comme tu le dis, tu n'avais aucune expérience dans le fitness, tout ça, tu n'avais pas été dans une salle de muscu. Voilà, c'était quoi l'attrait de voir, de voir un coach qui donne des cours en extérieur comme ça?
Alors, déjà, il était en extérieur. Bon, moi, je viens de la campagne. Dès que tu me mets dans un cadre de nature, ça me plaît. Faut savoir, donc, le travail que j'avais avant, j'étais donc ingénieure d'affaires. J'étais quand même beaucoup sur la route, beaucoup dans ma voiture ou dans les bureaux. J'étais toujours, j'aimais ça, mais toujours en talons. J'allais dire costard, mais non.
D'ailleurs.
Tailleur, merci. voilà, j'aime les attraits féminins, mais là, il y avait une sorte d'injonction liée à la fonction. Et donc, j'étais toujours voilà sur la route, toujours stressée, toujours avec les reportings, etc. Bon, j'ai découvert qu'être à son compte, finalement, c'est encore plus pire. Mais c'est vrai que c'est déjà le côté extérieur. Après, je pouvais fondamentalement me tromper parce que je ne sais pas si cette personne travaillait pour quelqu'un d'autre, j'en savais rien. Mais je me suis dit, lui, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et qui il veut. Il choisit ses clients, il choisit. Et en fait, c'est ce côté, quand je parle de liberté, c'est vraiment ça. Moi, j'ai un esprit un peu rebelle Je travaillais dans une équipe, alors toujours dans mon ancien métier, on était 6, 6 commerciaux, et mon responsable me demandait des choses, notamment d'être très présente au bureau. Et je lui ai dit, écoute Marc, si tu veux que moi ça fonctionne, demande-moi de moins de présence au bureau. Il m'a fait confiance et à moi seul, je faisais 60% du chiffre de l'agence.
Ouais.
Mais j'ai dû imposer ça et j'ai eu de la chance d'avoir un manager extrêmement intelligent sur mon mode de fonctionnement. Mais c'est vrai que j'ai un mode de fonctionnement un peu à contre-courant et qui me sert aujourd'hui dans la nutrition des sports de combat. Puisque justement, il y a beaucoup de légendes urbaines et j'ai plaisir à venir les casser, ces fameuses légendes, avec argument, bien sûr, hein, derrière. Et voilà.
Alors, comment tu...
Je suis chieuse, en fait.
Non, mais c'est bien. Moi, c'est ça, les esprits libres, un peu rebelles et tout. De toute façon, je pense que dans les gens qui se mettent à leur compte, il y en a quand même un bon pourcentage, tu vois. Et puis, dans les sports de combat, les arts martiaux, on est tous un petit peu zinzin au final, donc ça va avec. Mais alors, comment, en termes de compétences, parce que tu vois, je me suis beaucoup intéressé aussi à la nutrition, je ne suis pas un expert. Je me suis intéressé aussi au cutting, j'avais pris la formation de Lockhart, là.
Oui.
Voilà, mais juste par curiosité, tu vois, c'est pas un truc qui va me servir. Moi, je ferai jamais de cutting et j'ai pas envie de suivre des gens, les aider pour le cutting. C'est juste de la curiosité intellectuelle, on va dire. Mais il y a quand même une grosse différence entre la nutrition et le cutting pour les athlètes, quoi. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu, repréciser ce que c'est pour les gens qui connaîtraient pas l'art horrible du cutting.
L'art horrible, ouais.
Alors. Toi, tu vas peut-être que tu as des méthodes pour que ce soit moins horrible et c'est peut-être tout l'enjeu, mais on a vu beaucoup de vidéos et même pour avoir discuté avec des gens qui l'ont fait et tout ça, c'est quand même une sacrée épreuve et mentale et physique. Donc, est-ce que tu peux réexpliquer un peu ce que c'est le cutting et comment toi, après, t'as comblé ce gap de « je connais de la nutrition, mais c'est une autre bête, quoi. C'est quelque chose de complètement différent. »
Alors, avant de te parler du cutting, je vais te parler de la nutrition sportive. La nutrition sportive, en général, elle va s'orienter uniquement sur des chiffres. Tant de calories, tant de glucides, tant de lipides, tant de protéines. Généralement, ça s'arrête là. Donc ça, c'est pour la première partie nutrition sportive. Et grosso modo, on a tous en tête, et moi la première, j'ai grandi avec cette idée-là. Avant une compétition, on mange un gros plat de pâtes, ou on va manger beaucoup, beaucoup de féculents. Le cutting, donc forcément, nous sommes dans des disciplines à catégorie de poids. Donc, on va avoir une pesée. Très souvent, les objectifs des athlètes qui viennent, c'est plutôt pour une perte de poids. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres objectifs, hein, des objectifs de récupération, de prophylaxie, donc de gestion des blessures, aussi de prise de masse pour monter de catégorie. C'est pour ça qu'on va parler, moi avec mes athlètes, je parle de stratégie alimentaire.
Ouais. Voilà.
Mais donc, généralement, pour recentrer la chose, c'est plutôt de la perte de poids. Donc, manger des pâtes, des féculents, en tout cas, n'avoir quasiment que ça la veille d'une pesée ou le jour de la pesée, on sait que chez nous, c'est pas possible parce qu'on va faire ce qu'on appelle un rebond. On va remonter sur la balance. Donc ça, déjà, c'est pas permis. Donc déjà, le principe même de la nutrition sportive, à savoir gonfler ses stocks énergétiques, remplir ses réserves énergétiques au maximum, la façon traditionnelle, chez nous, combattants, elle n'est pas permise. Maintenant, le cutting, c'est quoi? Le cutting, c'est l'ensemble de plusieurs méthodes qui visent justement à perdre le poids très rapidement, en vue d'une pesée et d'un combat, mais aussi de rebondir, donc de reprendre ce poids le plus vite possible, alors peut-être pas dans son intégralité, pour pas qu'il y ait trop de lourdeur chez l'athlète durant son combat, mais de façon la plus efficiente possible. Et donc ça, c'est une tradition qui vient plutôt de la lutte, où 500 grammes, 1 kilo près, ça peut avoir un réel impact justement sur l'adversaire. Et comme aujourd'hui, on a des institutions sportives qui permettent ce rebond, les athlètes, c'est normal, ils vont prendre tout ce qui est avantage compétitif qui peut leur servir, ils vont aller dedans. Mais on a des disciplines, si je prends par exemple le taekwondo, on a une pesée de contrôle le lendemain. L'athlète, à l'époque, ne devait pas dépasser plus de 3% du poids de pesée. Dorénavant, c'est 5%. Le judo, pareil, pesée de contrôle, donc c'est aléatoire, ça ne veut pas dire que tous les athlètes vont être pesés, mais ils ont cette épée de Damoclès, donc pareil, pas plus de 5%. Mais dans le MMA, à part dans le ONE FC, toutes les organisations autorisent le rebond. Et c'est le MMA, donc déjà c'est à la mode, comme discipline, et j'avais déjà eu cette discussion récemment sur un autre plateau, dès que ça vient des États-Unis, nous les Européens et les Français en tout cas, je peux parler pour les Français, on a oh, c'est trop bien, ça veut dire que c'est ça le modèle vers lequel il faut aller. Mmh. Seulement, on est dans la course au spectaculaire parfois.
Ouais.
On voit avec Pablette, lui il est bon, il est anglais, mais on voit, il en fait limite un business. C'est dangereux. Moi, la première chose que je dis, c'est dangereux.
Ouais.
Donc, la plupart de mes confrères, quand j'ai commencé le métier sur la nutrition, ils disaient faut pas faire de cutting. Donc, l'athlète, il repartait la queue entre les jambes. On lui donnait un régime sur 3 mois. Sauf qu'en fait, il combat tous les 2 mois avec beaucoup de frustration. Donc, il allait faire son cutting de façon très mauvaise. Et moi, j'ai tendance à me dire, puisqu'on sait que l'athlète va faire le cutting, autant l'accompagner du mieux possible. Même si c'est certain, c'est pas idéal, mais autant l'accompagner du mieux possible. Donc, j'ai pas de méthode miracle. Mais voilà. Donc, c'est important de comprendre que la nutrition des sports de combat déjà n'a rien à voir avec la nutrition sportive, et le cutting c'est une étape dans la nutrition des sports de combat. Donc je parlais de différentes étapes, donc on a la première où on joue sur la masse grasse, la seconde où on joue sur la masse hydrique. Donc très souvent on confond cutting et water cut. Le water cut c'est la déshydratation à proprement parler.
Ouais.
Et ensuite on va avoir la reconstitution. Exemple, un athlète, il est en poids de forme à 85-84 kilos. Il veut être pesé à 77, mais il veut revenir combattre autour de 80-82. C'est là où il se sent bien. Et donc moi, toute mon expérience, mon expertise, ça va être de le faire peser au bon chiffre et de le faire revenir au poids qu'il souhaite. Voilà, donc on joue sur ça.
Parce qu'on sait que de toute façon, vu qu'il y en a qui perdent quand même parfois des poids assez impressionnants sur une très courte durée, le corps ne perd pas du gras à cette vitesse-là, donc c'est forcément autre chose qui est perdu. Quoi. Donc, ce serait pas possible, sinon, si c'était possible de perdre du gras à cette vitesse-là, ça serait sorti du milieu du cutting et ça serait dans le grand public. Quoi.
C'est ça. Et il faut savoir que le corps, en vrai, il met 36 à 48 heures pour récupérer d'une déshydratation aussi sévère. On les a jamais. Alors, quelques rares fois, on peut l'avoir si ton athlète, il est sur une grosse orga et il passe en fin de carte. Là, on peut avoir jusqu'à 36 heures, mais c'est pas souvent le cas. Et la problématique qu'on a, c'est que très souvent, les amateurs, ils reprennent un peu les méthodes de ce qu'ils voient chez les professionnels, sauf que ils n'ont pas le staff du professionnel, ils n'ont pas tout le staff paramédical. Et puis surtout, ils vont faire des méthodes... voilà. On dit jamais tout. Et les amateurs, ça, je tiens à le préciser, il n'y a pas de cutting chez les amateurs. Au pire, 1 litre, pas plus.
Ouais.
Parce que les amateurs, ils sont pesés le jour même. Donc, en fait, ils n'ont pas le temps de reconstituer. Donc, s'ils font un gros cutting, ça va être complètement délétère à leur performance dans le combat.
Et tu disais que les athlètes, ils allaient le faire de toute façon par eux-mêmes si on ne les aidait pas de la mauvaise manière. Alors, c'est quoi la mauvaise manière?
Alors, la mauvaise manière, la plus courante, c'est la tenue de sudation une semaine avant. Aucun intérêt. Aucun intérêt sur plusieurs plans. Le premier, c'est celui de l'adaptation. Le corps humain, son principe même, c'est de s'adapter. Donc, dès que tu vas lui mettre une contrainte, si tu veux, au départ, il va réagir. Donc, la contrainte, ça peut être la contrainte d'un entraînement. Tu lui mets un entraînement, quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie, tu lui fais faire 20 pompes, il est au bout de sa vie.
Ouais.
Une personne entraînée, 20 pompes, c'est facile. Ça, c'est parce que le corps, il s'est adapté, en fait, tout simplement. Pour la diète, c'est pareil. Au départ, un régime, on réagit parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais la tenue de sudation, c'est pareil. La première semaine, les premiers jours, tu vas transpirer, sauf qu'au moment où tu dois vraiment transpirer, à savoir le jour de la pesée, il se peut que tu transpires plus. Ça peut être aussi commencer une déshydratation trop tôt, 48, 72 heures à l'avance. Ben là, du coup, tu restes avec un temps de déshydratation trop important. Pour peu que tu t'entraînes, même en foncier, même un petit sparring léger, tu prends un risque de blessure. Moi, mon métier, c'est de minimiser les risques au maximum pour l'athlète. de lui trouver des solutions pour que les risques soient évités au maximum. Une autre erreur très courante, c'est couper les féculents. Voilà. Okay. Sauf que les féculents, c'est le jus, c'est l'essence de la voiture. Et bah, sans essence, tu n'avances pas. Ouais. Donc,
voilà. Les couper vraiment tôt ou de les couper juste tout court, toi, tu les coupes jamais?
J'en ai des fois, ils me les coupent 15 jours avant.
Ouais.
Alors, les féculents, pas les glucides, parce que souvent, il y a des gens qui disent « j'ai coupé les glucides ». Non, mon gars, tu n'as pas coupé les glucides, tu as coupé les féculents, qui fait partie de la famille des glucides. Les glucides, je le rappelle, c'est les fruits, les légumes, font partie des glucides également. Une autre erreur très courante que je retrouve de plus en plus dans le milieu des sports de combat, c'est la diète cétogène.
Ouais.
Alors, la diète cétogène ou keto diet, c'est le fait de couper les féculents, de s'alimenter essentiellement avec des lipides et des protéines. L'idée, c'est de venir perturber les voies métaboliques du corps. Alors, les voies métaboliques, on va considérer que ce sont les différents types d'essence pour l'organisme.
Ouais.
L'organisme, le corps, fonctionne sur la base des glucides en première intention et en parallèle, puis en seconde intention, sur celle des lipides. Exemple très parlant, un sprinter en 100 mètres, en 200 mètres, muscle très saillant, très volumineux, parce que l'effort est très bref. Tandis qu'un marathonien, lui, va davantage puiser sur ses réserves de masse grasse. Il a un corps très sec parce que effort très long, mais modéré.
Et souvent, on entend dire que la diète cétogène, c'est plus adapté au sport d'endurance qu'au sport. Enfin, il y en a qui vont te dire que la diète cétogène, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout. Voilà, même si moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre que justement, on détourne le fonctionnement de départ du corps qui est basé plus sur les glucides, mais il y en a qui vont dire oui, on va même améliorer ses performances avec la diète cétogène sur les sports d'endurance.
Ah oui, sur les sports d'endurance, oui, ouais. J'acquiesce. C'est possible. Il y a des études qui l'attestent, donc c'est possible. Maintenant, moi, ma spécialité, encore une fois, ce sont les sports de combat. Et si tu veux, je vois vraiment, j'ai récupéré tellement d'athlètes qui ont complètement. Encore une fois, on perturbe tout le système métabolique. Donc, c'est comme si tu as un moteur, il est fait pour fonctionner un type d'essence et tu viens tout modifier. Tu constates que ça ne fonctionne pas parce que ça ne va pas fonctionner et il faut tout redéconstruire pour tout remonter. Quelle perte de temps pour un athlète. Vraiment, quelle perte de temps. Et en effet, donc nous, ça, c'est vraiment une erreur qu'on retrouve, la diète cétogène. Certains me disent « oui, mais je vais le faire juste pendant ma prépa ». Et je vais arrêter un certain temps suffisant pour avant mon échéance, avant ma pesée. Là encore, non. Enfin, moi, personnellement, je ne recommande pas ça. Parce que l'objectif de la prépa, c'est d'augmenter les performances, d'augmenter toutes les qualités physiques que l'on souhaite. Et c'est là où on doit être au max. Et si tu n'arrives pas à être 100% lors de ta prépa physique, tu ne seras pas à 100% sur ton combat. Voilà.
Et alors, est-ce que d'après toi... Parce qu'il y a la diète cétogène qui est très à la mode, il y a le jeûne intermittent aussi.
Oui, aussi.
Est-ce que sur le jeûne intermittent, donc des jeûnes plutôt courts, on va dire que le modèle le plus connu et le plus utilisé, c'est le 16h-8h. Donc est-ce que, parce que en fonction, si tu as une alimentation, on va dire normale, entre guillemets, avec pas mal de glucides et tout ça, mais que tu jeûnes, souvent tu n'as pas forcément le temps de rentrer en état de cétose. Donc, est-ce que toi, c'est quoi ton avis, grosso modo, sur le jeûne intermittent pour, dans ton contexte à toi, pour les sports de combat?
Alors, je sais qu'en diète, on adore complexifier les choses et je ne comprends pas pourquoi. Moi, j'aime bien ramener à la simplicité. On met des concepts sur plein de choses. Le jeûne intermittent, on fait tous naturellement un jeûne intermittent la nuit. Si on prend une nuit traditionnel de 7-8 heures, hein, la moyenne, c'est du jeûne déjà. Mais on aime bien mettre des noms, on aime bien mettre des concepts. Alors, le jeûne intermittent, là, je le ressens sur ma spécialité sport de combat et il s'avère que je travaille quasiment qu'avec des athlètes, j'ai des athlètes amateurs, mais quasiment que des professionnels ou des semi-pros. Donc, j'intègre ce qu'on appelle le timing d'ingestion. Encore une fois, analogie à la voiture. Si je sais que j'ai 400 km à faire avec ma voiture, je vais faire le plein avant. Je vais avoir un timing pour remplir mon réservoir qui va être adapté à mon objectif. Là, c'est la même chose, en fait. Mes athlètes, il n'y a pas une histoire de jeûne intermittent. Il y a une histoire de, OK, si je veux arriver à tel objectif, alors il est plus pertinent de manger tant de temps avant et tant de temps après. Je vais rendre la chose plus concrète. Les fameux glucides, riz, pâtes, pain, blé, tout ça, ça met entre le moment où tu le mets dans la bouche, où c'est mastiqué, dégradé, puis stocké, donc mis en réserve par l'organisme pour être utilisé, en fonction de comment on l'a cuit, etc., c'est 5 à 8 heures. Mmh. Donc, si je sais que j'ai un effort intense, j'ai tout intérêt à manger dans les 5 à 8 heures avant. Et donc, quand j'ai des athlètes qui ont 2 séances par jour, le jeûne intermittent n'est pas le plus approprié. Maintenant, si j'ai un seul entraînement par jour, ça peut avoir du sens parce que si je fais cette charge suffisamment tôt avant, donc du coup, j'ai mon entraînement 5-8 heures après, bon, ça peut avoir du sens. Mais en l'occurrence, dans ma spécialité, les personnes avec lesquelles je travaille, pas trop.
Ouais. Donc, ce qu'on peut retenir quand même, c'est que une donnée importante, c'est que quand on mange des glucides, pendant 5 à 8 heures, on va pouvoir les utiliser pour une séance. Si ça casse un peu cette idée qu'il faut, ou alors si je me trompe, tu me dis, mais qu'il faut absolument manger des glucides, je sais pas, très peu de temps avant ton entraînement, sinon tu vas être complètement à plat, quoi.
Alors les glucides, c'est toujours un petit peu pareil. Il y en a deux formes. Il y en a des assimilations rapides, d'autres assimilations plus lentes. Donc là, ceux que j'ai cités, c'est plutôt la famille des féculents, riz, pâtes, pain, blé, etc. C'est de l'assimilation lente. Donc, c'est pas qu'ils sont utilisables pendant 5 à 8 heures, c'est qu'entre le moment où je les mastique et le moment où ils sont utilisables, où ils sont efficaces, il faut attendre un délai de 5 à 8 heures. Il y a un délai de carence, entre guillemets. Mais tu vas avoir des sucres à assimilation plus rapide, le sucre de table, par exemple, les sirops. Donc ça peut être quasi immédiat en utilisation.
D'accord. D'où les boissons d'effort et tout ça qui sont avec du sucre en général. Pas mal de sucre même. Ok, donc on va dire jeûne intermittent pour un athlète pro, non. Pour un athlète loisir qui s'entraînerait une fois, pourquoi pas, quoi.
Pourquoi pas, voilà. Après, le jeûne réel, sur 2-3 jours, il a des vraies vertus. Donc là, on n'est pas sur du jeûne intermittent. En gros, c'est ne consommer que des liquides sur 2-3 jours. On va avoir une fonction au niveau du foie, donc ce qu'on appelle la fonction hépatique. Ça va venir, j'aime pas ce terme, mais bon, il est tellement rentré dans les mœurs que ça va venir détoxifier vraiment le foie, donc l'organisme. Donc, ça peut avoir des vertus de temps en temps, voilà, pas tous les mois non plus.
Ouais. Et est-ce que dans ces cas-là, alors je ne sais pas si c'est ta spécialité, mais sur ces jeûnes de 2-3 jours, moi j'ai vu des gens qui recommandaient par exemple de quand même prendre des acides aminés ou des choses comme ça pour limiter un petit peu la perte musculaire, tu vois. Est-ce que tu es quand même en jeûne si tu prends des EAA ou des BCAA ou ça casse ton jeûne? Est-ce que tu perds les bénéfices de la détox, du nettoyage?
Alors, moi, je pars du principe, quand on fait un truc, autant le faire à fond, tu vois. L'idée de rajouter des acides aminés, tu vas rajouter quand même un traitement à l'organisme. Sauf que le but de ce jeûne, c'est d'éviter tout traitement. Voilà. Et je ne suis pas convaincue qu'on perde de la masse musculaire en 2-3 jours. Si on parle d'une semaine, là, je dirais bon, OK. Mais sur 2-3 jours, non. Et si jamais on est sur un athlète justement, encore une fois, de haut niveau, ou semi-pro, ou qui s'entraîne vraiment avec assiduité, voilà, en 2-3 jours, il va pas perdre sa masse musculaire.
Est-ce que tu recommandes de prendre quand même des sels minéraux, des choses comme ça?
Bien sûr. Alors après, dans les boissons qui vont être consommées, très souvent, alors effectivement, ce n'est pas ma spécialité. On trouve beaucoup de comptes Instagram justement sur la micronutrition. Ah, je fais de la micronutrition, mais orientée justement sur le jeûne. L'idée, c'est de rajouter beaucoup de produits type cannelle, curcuma. Ce sont des antioxydants naturels. Mais l'idée, le focus, c'est vraiment l'hydratation, avoir une fonction digestive proche du néant, entre guillemets, pour reposer l'organisme. Et ce qui ressort globalement de ça, c'est un regain d'énergie. Et c'est normal puisque la fameuse on a des fonctions donc cardiaques, respiratoires et digestives. Ce sont les besoins physiologiques. Et la fonction digestive, c'est celle qui dépense le plus d'énergie dans le corps humain. Donc quand tu la mets au repos, il est tout à fait normal d'avoir ce regain d'énergie, justement.
Et ça laisse place aussi à ce qu'ils appellent l'autophagie pour le nettoyage cellulaire, les cellules mortes et tout ça, quoi.
Exactement.
Ok, intéressant. Après, sur la nutrition, on va dire plus approprié pour les athlètes. C'est vrai que moi, vu de loin comme ça, une fois, j'avais demandé à un combattant, dire mais pourquoi en fait tu fais pas simplement un régime progressif sur plusieurs mois pour pas avoir besoin de faire de cutting. Il m'avait dit en fait si je fais un régime trop long, je vais pas avoir assez d'énergie pour mes entraînements souvent et du coup je vais être moins performant parce que je vais moins faire un gain de performance dans ma préparation, quoi. Est-ce que tu confirmes cette théorie ou pas ?
Je confirme ça. Et puis encore une fois, on est sur des athlètes, on vise la performance. Et la performance, je le dis tout le temps, ça se joue à un cheveu. Donc si on peut se donner un avantage compétitif, l'athlète va forcément y aller. Ce qu'a décrit la personne avec laquelle tu as échangé, c'est tout à fait vrai. Il faut savoir que nous, là, la fin de saison, je vais donner l'exemple de Blandine Pont. Blandine Pont, c'est une jeune judokate qui est en équipe de France, qui est présélectionnée pour Paris 2024. Donc moi, elle m'a contactée il y a un an et demi. J'ai toujours un petit problème de notion de temps, moi. Mais bon, elle m'a contactée. C'est ça, c'était 2022, en vue de Paris 2024. Les jeux, on le sait, hein, ça se prépare, c'est pas la dernière année, hein, c'est 3-4 ans à l'avance. Blandine, la fin de saison, en un mois et demi, elle m'a enchaîné trois compétitions décisives parce que ça commence à rentrer dans les comptages de points pour les qualifications des jeux. Donc, elle sort d'une compétition, pof, elle est tout de suite dans une autre, tu vois. Et donc là, tu pourrais me dire, ok, mais justement, c'est plus simple si elle maintient son poids. Sauf que elle n'aurait pas cet avantage compétitif. Parce que tout à l'heure, j'ai bien mentionné que le cutting, c'est perdre du poids sur la masse grasse et l'eau, mais c'est aussi reconstituer pour revenir à un certain poids. Et souvent, on oublie cette dernière partie qui est essentielle.
D'accord. Parce que pour ceux pour qui ce ne serait pas évident, la plupart du temps, si tu es plus lourd que ton adversaire, c'est déjà un avantage. Ce n'est pas ça qui te fait forcément gagner un combat, mais à jeu égal, ça peut faire la différence.
C'est ça. Je vais le pondérer par discipline. Tout ce qui est pied-point, ça a moins d'impact. Alors, tu vas l'avoir dans l'impact de frappe, potentiellement le chaos, voilà. Mais c'est beaucoup plus vrai dans tout ce qui est sport de préhension, judo, JJB, grappling, et tout ce qui est sport mixte. Donc, MMA, Sanda, etc.
Ouais. Ok. Tu me parlais de judo, et du coup... je sais que tu t'es occupé de Clarisse Agbegnenou, c'est bien ça ?
Oui.
Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as fait avec elle et pourquoi elle t'avait contacté ?
Oui, voilà, alors...
Moi, je ne la connaissais pas bien, okay. Tu vois, mais c'est un peu la Teddy Riner féminine, quoi.
Ah, mais c'est complètement... Clarisse est une femme incroyable, impressionnante. Et pour la connaître humainement, moi, je lui ai toujours dit ça. C'est la même, c'est une vraie championne de la vie. Elle est d'une gentillesse, d'une douceur. Je suis fan de Clarisse, c'est simple. Alors Clarisse, on travaille plus ensemble depuis bien 3 ans maintenant. Hein. Okay. Mais bon, moi ça fait 10 ans que j'exerce, donc l'objectif c'est de rendre les athlètes, bien entendu, autonomes. Clarisse me contacte juste après les Jeux de Rio 2016. Elle a perdu. Elle est sur le podium, mais elle n'est pas première. Donc, ouais. Mentalité de championne. Pour elle, elle a perdu. Elle n'a pas été satisfaite. Elle avait entendu parler de moi. Et donc, elle m'appelle cet été-là. Je m'en rappellerai toujours. Pareil, c'est une anecdote que j'ai racontée il n'y a pas longtemps. Je suis à l'apéro avec mes parents. Et j'ai raccroché. Et mes parents, ils me voient faire danse de la joie. Ils n'ont pas compris. Et, non, mais c'est Clarisse, vous ne comprenez pas. Enfin, voilà, c'était... Et donc, elle me sollicite pour sa nutrition. Et en gros, l'idée, ça a été, pour moi, vraiment la même approche qu'avec tous mes athlètes. Hein. prendre en charge ses habitudes à elle, Clarisse, qu'elle aimait le matin, c'était du pain avec du beurre de cacahuète, des rondelles de banane dessus, des baies de goji, enfin voilà. Et l'idée, en fait, c'est pas de venir transformer fondamentalement tout ce qu'ils font, c'est de placer les bons curseurs, ce que je disais tout à l'heure. Bon, ben vis-à-vis de tel entraînement, ça on va peut-être plutôt le placer le matin, le midi, le soir, enfin voilà, et revoir les quantités aussi, parce qu'on reste sur des sports à catégorie de poids, donc il nous faut cette précision là. Mais vraiment de la rendre la plus autonome possible avec une alimentation plaisir.
Et ça, c'est bien te voir. Je t'interromps deux secondes, mais elle vient te voir, donc elle est pas contente parce qu'elle est pas première, et elle se dit, qu'est-ce qui lui a fait dire, tiens, c'est peut-être du côté de la nutrition que ça a pêché. Alors je sais pas, peut-être qu'elle a aussi été contactée un nouveau préparateur physique ou je ne sais pas, mais qu'est-ce qui, quand elle vient te voir, est-ce qu'elle avait déjà quelqu'un qui s'occupait de sa nutrition ou elle faisait tout elle-même? Qu'est-ce qui lui a fait se dire que c'est ça qui peut-être pouvait faire la différence?
Alors, c'est pas une question que je lui ai directement posée, mais après il s'avère que elle a été suivie par une personne qui est très amie avec moi aussi, qui s'appelle Joanne Dominique, qui est une excellente nutritionniste elle aussi, et qui a retravaillé après Clarisse pour sa grossesse d'ailleurs. Donc, et toutes les trois, voilà, on s'entend vraiment très bien. C'est girl power, j'ai envie de dire. Et donc elle avait déjà travaillé quelqu'un. Maintenant, moi, je communiquais sur cette expertise des sports de combat justement. Donc c'est peut-être ça qui l'a attiré sur le fait qu'on travaille ensemble. On a quand même bossé 4 ans ensemble avec Clarisse, hein. On a un long partenariat. Mais la nutrition ne s'arrête pas qu'à la pesée. Il faut savoir que donc dans le judo, c'est pas comme le MMA, il n'y a pas qu'un seul combat. Il y a plusieurs combats. Donc la nutrition va venir soutenir, si tu veux, la récupération entre les combats pour remettre de l'énergie justement remonter nos fameuses réserves, hein, toujours pareil. Et en fait, il y avait une sensation. Alors oui, peut-être qu'elle a été frustrée techniquement, etc., par son adversaire. Il n'y a pas eu de changement de staff. Elle est toujours à l'INSEP, toujours avec son préparateur physique, Mathias Ricard, toujours dans son club, etc. Mais il y avait eu cette sensation de pas pouvoir aller au bout de sa capacité physique. Et elle avait senti que c'était... en tout cas, elle avait pressenti, c'est plus juste, que ça pouvait être lié à sa nutrition. Et comme toute athlète de haut niveau, elle se remet en question et elle va essayer de prendre toutes les pistes possibles pour optimiser sa performance, qui, de toute façon, c'est toujours multifactoriel. Hein.
Ouais, ok. Et alors donc, est-ce que toi, d'après l'état des choses, quand tu l'as vu, il y avait vraiment beaucoup de choses à améliorer, des choses qui n'allaient pas du tout c'était...
Alors, non, il y avait... En fait, on avait une problématique de ce qu'on appelle composition corporelle. Le ratio masse-maigre, masse-grasse. Problématique que je rencontre à 95% des cas. Voilà. La composition corporelle n'est pas du tout optimisée. Et donc, moi, mon job, c'est d'optimiser ça, justement. Donc, l'idée, c'était de redescendre un petit peu sur son poids de forme. Et après, maintenir un poids de forme similaire, mais avec une masse musculaire plus importante et une masse grasse plus petite. Voilà. Okay. Donc, ça a permis de développer encore plus les qualités physiques, donc tout ce qui est force, puissance, explosivité, etc., sans trop bouger le poids. Donc, ça s'est fait en deux étapes. La première étape, retravailler sur le poids de forme, le redescendre, parce que les pesées commençaient à être un petit peu plus complexes. Et ensuite, dans un second temps, optimiser justement cette composition corporelle.
Et ensuite, et après, optimiser encore une moment, fois,
elle a été autonome, et puis c'était OK. Voilà. Et après, elle a eu sa petite fille. Elle est retournée quand même. C'est pour ça que je dis que c'est une championne. Elle est retournée combattre 10 mois après la naissance de son enfant, qu'elle allaitait encore. Elle a changé les mentalités au niveau de ça. Elle a su imposer ça. Moi, je trouve que c'est incroyable, hein, en tant que femme. Et après, moi, c'est vrai que tout ce qui est allaitement, etc., c'est pas ma spé, c'est pas ma cam non plus. Donc, c'était tout à fait naturel qu'elle aille voir la fameuse Joanne.
D'accord, ouais. Et alors, je suppose que tu voudras pas, bien sûr, révéler tous tes secrets et tout, mais comment tu optimises la recharge, on va dire, d'énergie entre les combats?
Ok. Alors, non, ça, il n'y a pas trop de secret parce que pour le coup, j'ai rien inventé. J'ai juste diffusé et je dis un peu casser les certains codes. Mais ça, c'est quelque chose que je partage beaucoup sur mes réseaux sociaux parce que moi, si tu veux, j'en ai marre que les athlètes fassent n'importe quoi, qu'ils se butent la santé. Parce que c'est bien beau cette course au spectaculaire, mais faut savoir que les coachs encouragent parfois cette course au spectaculaire parce que les athlètes, malheureusement, c'est du bétail. Donc les coachs, ils les voient passer, mais ils n'ont pas cette dimension de l'après-carrière. Moi, je suis pas là pour leur ruiner la santé et pour que derrière, ils deviennent obèses parce que bon, très souvent, quand il n'y a plus de d'échéance, bah, les athlètes, ils explosent, quoi. Hein.
Parce que toi, tu parlais de Paddy, c'est Gimblet.
Ceux qui ont terminé leur carrière.
Ouais, c'est ça, il y a un qui, je ne sais pas si tu connais dans la boxe anglaise, Ricky Hatton.
Non.
Alors, qui s'appelait lui-même Ricky Fatton, qui prenait des 30 kilos entre les combats et tout. Et aujourd'hui, il est à la retraite. Il avait perdu contre Mayweather alors qu'il était invaincu à l'époque et tout. Et ça a été un peu après la descente un peu aux enfers pour lui après cette défaite-là. Mais tu le vois aujourd'hui, il est presque obèse, quoi. Et il y en a plusieurs dans la boxe anglaise, tu vois, qui fin de carrière,
Duran, tout ça. Ouais. C'est pour la plupart. Mais c'est pour ça que, tu vois, pour moi, c'est très important de véhiculer tout ça pour que les personnes prennent conscience, qu'ils prennent conscience que le cutting, c'est pas anodin, que, tu vois, c'est... Donc non, là-dessus, il n'y a pas de secret. En fait, si tu veux, après un combat, ce qui est très important, c'est de réhydrater. Parce que le facteur hydratation, c'est le premier facteur limitant dans la performance. Donc, dès que tu es déshydraté, en fait, il y a des impacts directs. Il y a beaucoup d'études qui montrent que tes performances sont en baisse. Aussi, c'est remettre du sucre à assimilation rapide. Les fameuses boissons d'effort, en fait, hein, y a pas... Ouais. Et toujours un petit peu de sel, parce que la transpiration qui a ce goût salé, on perd en fait du sodium, qui est un des composants. Donc, la transpiration s'est faite à 99% d'eau. Et dans le 1%, il y a plein de minéraux. Mais le minéral essentiel que l'on perd, c'est le sodium. Et on en a besoin pour tout ce qui est contraction, décontraction musculaire, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la boisson d'effort. Donc déjà, c'est la première des choses à faire. Ensuite, si on a plusieurs combats, reprenons l'exemple du judo. Entre le premier tour et le deuxième tour, il peut parfois se passer jusqu'à 4 heures. Donc là, j'ai le temps de manger. Alors, jamais se forcer à manger, toujours à la sensation. Surtout que parfois avec le stress, on a l'estomac noué. Donc, mieux vaut manger des petits encas. Voilà, donc les fameux fruits secs, les barres de céréales. On va s'orienter vers des choses plutôt glucidiques. Moi, j'aime bien conseiller aussi du pain de mie blanc. Ouais. Voilà. Ce qu'il faut faire, l'hydratation des sucres, différents types de sucres. Assimilation rapide, assimilation lente. Si on a suffisamment de temps, un petit peu de protéines, mais des protéines maigres. C'est pour ça que le petit sandwich, j'aime bien. Tu vois, une petite tranche de jambon, de blanc de poulet, voilà. Et ce qu'il faut fuir, en revanche, c'est tout ce qui est gras. Okay. Tout ce qui est gras va venir alourdir mon système digestif. Je le disais tout à l'heure, la fonction digestive, c'est ce qui coûte le plus en énergie. Et le corps humain, il va toujours aller à l'essentiel. Il va toujours aller vers sa survie. Donc, entre mettre des coups de poing, des coups de pied, etc., des clés de bras, ou assurer une fonction de survie, c'est vite vu, ça sera la survie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va mettre moins d'énergie dans tes muscles que dans ton estomac. Ouais. Donc, si je viens alourdir cette fonction digestive, c'est pas top.
Alors, pour je sais que la plupart des gens qui nous écoutent, c'est pas des combattants pro et tout. Pour le pratiquant lambda qui s'entraîne et tout, est-ce que tu recommandes aussi, peut-être pendant l'entraînement pour le coup, des boissons d'effort, quelque chose, ou simplement de l'eau, ça suffit?
Alors, tout dépend de la durée de l'entraînement. Tout effort d'une heure et moins, l'eau seule suffit. Je répète, tout effort d'une heure et moins, l'eau seule suffit.
Vraiment. Même si c'est très intense.
À la rigueur, si c'est vraiment très intense tout le long, peut-être les 10 dernières minutes, 10-15 dernières minutes, ok, une boisson d'effort.
Mais moi, je sais que, juste à titre d'exemple, mais c'est du coup, c'est, c'est juste mon expérience à moi. Quand je fais des entraînements de lutte où on fait quasiment pas de technique, on fait que des matchs, pendant, alors il y a l'échauffement et tout, mais on va dire que tu as 45 minutes de match, c'est hyper intense. Quand je me prends une boisson, souvent je me fais un cocktail EAA, Vitargo et un peu de bah justement sodium, potassium dedans et tout. Je me sens, enfin, je vois qu'en fin de séance, sur les derniers matchs, j'assure mieux que si je suis juste à l'eau en fait. Mais moi, je prends une petite gorgée entre voilà des petites gorgées entre chaque entre chaque match et tout. Mais j'ai l'impression. Alors, c'est peut-être psychologique, hein, mais j'ai l'impression que j'ai moins une perte liée à la fatigue à la fin sur les derniers matchs, tu vois, quand je fais ça que si je fais uniquement à l'eau.
Alors, je vais t'indiquer la théorie et la pratique. Donc, ouais. La théorie, c'est ce que je viens de dire. Au-delà d'une heure, on passe justement à des boissons, comme tu viens d'expliquer, donc les fameuses BEAG, boissons d'effort, soit en recette maison, soit vraiment dans le commerce. Maintenant, on trouve des trucs pas mal. Ouais. On évite les Red Bull, les Dark Dog, les sodas. Enfin bon, ça peut paraître évident, mais j'ai tout vu dans ce métier. Donc vraiment, on évite.
Et si on a des exemples de trucs dans le commerce qui sont bien ?
Oui, tu as la Gatorade qui est très bien, la Powerade. Okay. Franchement, c'est correct. Hein. C'est correct. Okay. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est en poudre. Donc en termes de conditions de transport, d'hygiène, c'est pas mal. Parce que tu peux le faire au dernier moment. D'accord. Tandis que tu me donnes l'exemple de la personne loisir, pour peu qu'elle soit partie le matin, qu'elle ait préparé sa boisson le matin, qu'elle ait pas eu des conditions de stockage, qu'il ait fait un peu chaud, bon, tu vois, le soir quand il va s'entraîner, parce que généralement les entraînements loisirs c'est le soir, c'est peut-être pas foufou, tandis que s'il la prépare au dernier moment, déjà d'un point de vue hygiénique, voilà, c'est des choses dont on tient compte.
Donc là, on sait que la plupart des cours, le soir, c'est quand même 1h30 en général.
C'est ça.
Donc, ça peut être intéressant d'avoir sa boisson d'effort.
C'est ça. Mais sur les 1h30, on a quand même dans les sports de combat une longue tradition d'échauffement. Enfin, moi, je me rappelle le karaté, l'échauffement, à un moment donné, ça se couplait un peu avec le début de séance. Mais tu as un 15-20 bons minutes d'échauffement, renfort musculaire, facile, quoi. Facile, ouais. Facile. Mais bon, pour te répondre, voilà, vraiment, c'est la durée de l'effort. Moins d'une heure, en théorie, l'eau. Plus d'une heure, c'est l'eau avec des sucres et avec du sel, boisson d'effort. Et au-delà d'une heure et demie, deux heures, et si on est sur une séance avec dégradation musculaire, donc tout ce qui est JJB, sol ou même musculation lourde, là, on va rajouter des acides aminés. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est la théorie. Moi, maintenant, en pratique, qu'est-ce que je dis à mes athlètes, surtout s'ils sont en perte de poids? Ayez toujours sur vous deux types de boissons. Tant que vous pouvez, vous prenez l'eau. À partir du moment où vous avez les premiers signes de fatigue, sachant qu'on est sur des personnes, leur corps, c'est leur outil de travail. Donc, ils ont une connaissance de leur corps, des signes de leur corps. Quand vous commencez à sentir les premiers signes de fatigue, prenez la boisson d'effort. Puisqu'on est sur une assimilation quasi immédiate, donc ils vont sentir le regain tout de suite. Et si jamais ils peuvent s'en passer, tant mieux, puisque la plupart sont dans une logique de perte de poids. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand je recharge en sucre, je remets de l'essence. Et nous, on veut minimiser au maximum, on veut réduire ces réserves énergétiques au maximum lorsqu'on est en perte de poids.
Ok.
Je ne sais pas si j'ai été claire.
Si, ouais.
Cool.
Et qu'est-ce que tu penses des boissons d'hydratation ? Est-ce que ça a sa place alors pour les pros, est-ce que ça a sa place pour les amateurs et tout, parce que on va dire l'argument marketing, c'est que l'eau finalement ça n'hydrate pas suffisamment et que donc voilà les boissons d'hydratation c'est supérieur et qu'on a une tendance à être pas suffisamment hydraté.
Alors sur le principe, ce que disent les études, c'est vrai. Encore une fois, moi j'aime toujours reprendre la théorie et la remettre dans un contexte de terrain. Tu sais, j'ai sorti une formation justement pour transmettre un petit peu tout ça à des personnes plutôt comme toi, tu sais, qui sont coach, entraîneur et curieux. Et j'aime toujours mettre en face la théorie et la pratique. En théorie, oui. Donc, ce sont des boissons qui vont avoir des meilleurs minéraux, une meilleure assimilation. Maintenant, sur le terrain, déjà, les gens, ils boivent pas assez. Donc, si on commence à leur prendre la tête en leur disant « Oui, mais l'eau que t'achètes ou l'eau du robinet, ça va pas », Ils vont plus te dire, allez, en galère, c'est bon, j'arrête. Donc, moi, ce que je préfère surtout, c'est que déjà, mon athlète parvienne au seuil d'hydratation dont il a besoin. Une fois qu'on a fait ça, une fois que c'est ancré, là, on peut passer au niveau supérieur. Tu sais, comme on dit, avant de savoir courir, il faut apprendre à marcher. Moi, je dois apprendre à marcher à beaucoup de gens, même si ce sont des pros. Ensuite, je leur apprendrai à courir. Mais sur le principe, je confirme les études que tu as pu lire.
Et c'est quoi une bonne hydratation? Alors, est-ce qu'il y a la règle de temps par tant de temps d'entraînement, tu bois tant. Mais déjà, c'est quoi la base hors entraînement qui est recommandée selon toi pour que les gens se fassent une idée et qu'ils puissent se dire en fait, je m'hydrate peut-être pas assez, je bois peut-être pas assez d'eau, parce que on leur dit aux gens, il faut s'hydrater, mais il y a des gens qui vont dire, moi, je bois 2 verres par jour, ça me suffit, je m'y suis bien hydraté, quoi.
Alors, ce sont des signes, ce sont des symptômes. Déjà, dès qu'on a la bouche un peu pâteuse, c'est le premier signe de déshydratation. Dès qu'on a la sensation de soif, c'est un signe de déshydratation. Déjà, 1% de déshydratation. 1% de déshydratation, ça équivaut, donc les statistiques qui sont données, les études indiquent 1% de déshydratation égale 10% de perte en performance physique et cognitive, donc au niveau intellectuel aussi. Donc, toutes les personnes qui sont devant leur ordinateur toute la journée et qui ne boivent pas assez, donc là, vous nous voyez boire depuis tout à l'heure, voilà, ouais. Un petit verre aussi. Il faut avoir conscience de ça, de ces premiers signes. L'autre signe qui est assez fréquent, c'est les urines. La première urine du matin est toujours un petit peu plus foncée, un petit peu plus odorante, c'est normal. Mais en fin de journée, il faut qu'elle soit quand même relativement claire et transparente. Donc ça, déjà, il faut être à l'écoute de ces signes-là. Maintenant, moi, je suis pas une partisane de « il faut boire tant de litres, telle quantité toutes les 15 minutes ou toutes les 20 minutes » parce que parfois, on peut pas. Là, par exemple, on a cette chance, toi et moi, de pouvoir travailler à notre compte, à notre rythme et de faire ce qu'on veut. Moi, je me rappelle quand je fais donc un petit flashback dans le temps, quand je me faisais des 3-4 heures de réunion, de négociation avec les acheteurs d'Air France, de Sanofi, les acheteurs te mettent dans des conditions désagréables, donc ils te servent qu'un petit verre d'eau histoire d'eux pour 3-4 heures de réunion, ils montent la température pour que nous, commerciaux, on cède rapidement parce qu'il y a des techniques de vente, là, tu peux pas boire, en fait. Et il y a peut-être des personnes qui vont se retrouver dans cette description ou quelqu'un qui est sur son chantier et tu vois, donc... Je suis pas fan de donner des dogmes comme ça parce que dans la théorie, oui, mais sur le terrain, c'est pas applicable. Okay. Donc, l'idée, c'est d'être attentif à ces signes, d'essayer, de boire le maximum, toujours sans se gaver, sans se sentir gonflé parce qu'après, ça crée de l'inconfort digestif. Moi, par exemple, ce que j'ai toujours lu, c'est qu'il fallait boire, on essaye 2-3 verres par repas. Je vais te parler de mon cas personnel. Si je bois de l'eau après 17 heures, je me lève 10 fois la nuit. Mais vraiment. Donc, en fait, je sais que mon ingestion hydrique, elle aura lieu en amont. Mais tout ce que tu vas lire comme conseil théorique, c'est à chaque repas. OK, on fait comment alors? Un signe majeur, je vais préciser. Un autre signe majeur de déshydratation, c'est donc d'avoir soif le matin, mais surtout de se réveiller la nuit pour boire. Si vous vous réveillez la nuit pour boire, ça signifie que votre corps est tellement déshydraté qu'il vous pousse à vous réveiller pour aller boire. Ça, c'est un vrai signe de déshydratation. Si soyez vigilants à ça.
Ok, ça c'est intéressant. Ouais. Ok. Comme tu parles de dogme et tout, je sais que tu aimes bien, t'en as parlé un peu, aller casser les idées reçues. Est-ce qu'il y a d'autres choses là qu'on n'a pas encore abordées auxquelles tu penses qui reviennent très souvent et ça te saoule d'entendre tout le temps ces mêmes idées ou ces mêmes choses, tu vois que ce soit sur le coaching, je pense qu'on a fait quand même déjà. Un peu le tour, mais sur la nutrition de manière générale, ça peut être sur la perte de poids, sur, tu vois, parce que...
Alors, moi, j'ai un petit peu du mal avec les tendances, avec la mode. Je suis quelqu'un qui respecte et qui ne juge aucune, prise de parti, mais on peut avoir des contraintes digestives, des contraintes le mot m'échappe, éthique, religieuse, vis-à-vis des allergies alimentaires, et c'est propre à chacun. Ce qui va plutôt m'agacer, c'est des personnes qui vont me dire, « Ah ben, je veux pas manger de lait parce que c'est mauvais. Je veux pas manger de gluten parce que c'est mauvais. » Ok, quels sont les effets sur toi, concrètement ? On a des personnes... Alors, c'est pas foufou, effectivement. Je fais partie des personnes qui sont pas les plus tolérantes pour ça. Mais ce qui va plutôt m'agacer, ça va être des nutritionnistes qui prônent leurs convictions et les imposent comme des dogmes, justement. Autre exemple, vraiment, je te parle de vraiment de mon quotidien. Le lait, le lactose, en effet, physiologiquement, en effet, nous, humains, pour être sevrés autour de 7-8 ans. Ce qui fait que c'est un produit qui est moins digeste. Parce que la lactase, c'est la petite enzyme qui vient dégrader, phagocyter le lactose. Cette enzyme, elle est de moins en moins produite par l'organisme. Donc, ça crée des problèmes de digestion pour bon nombre de personnes, mais pas toutes les personnes. Et c'est pour ça que j'ai parlé de mon vécu. Moi, j'ai toujours vu mes parents tous les matins se boire leurs 300 ml de lait. Là où moi, à 7 ans, je pouvais pas. Mais ça veut dire qu'il y a des personnes, c'est OK pour elles. Et je trouve dommage qu'un produit plaisir, alors j'ai dit le lait, mais ça peut être autre chose, qu'un produit plaisir soit considéré comme banni. Tout à l'heure, je voulais te parler de ça. Il y a une dimension sur laquelle j'ai pas parlé, c'est les produits plaisir. Dans les sports de combat, il peut y avoir beaucoup de frustration. Ce sont beaucoup de sacrifices. Quand t'as des personnes, moi j'ai des athlètes, ils se lèvent le matin pour s'entraîner, ils vont bosser toute la journée, ils retournent s'entraîner le soir. En plus, ils sont au régime. Pour peu qu'ils soient parents, généralement on est sur des personnes qui ont 30, 35 ans, donc généralement des enfants en bas âge. Waouh quoi, waouh, chapeau. Donc si on peut leur donner un peu de plaisir par la bouffe, qui est un acte qu'on fait au moins 3-4 fois par jour, bah allons-y quoi. Alors je dis pas que c'est régime burger frites tous les jours, mais je me rappelle de Steven D'Acosta, c'est un champion du monde et olympique de karaté. Il était venu me voir et il m'avait dit, bah Cécile, moi mon produit plaisir c'est burger frites. Bah il avait, pas tous les jours, mais il avait ça dans sa diète. Ouais. Bon, le karaté, on n'est pas sur des coupes de poids très impressionnantes, mais quand même. Et c'est très important de garder les produits plaisir. Donc voilà, ce qui va m'agacer vraiment, c'est le « Ah ben, j'ai entendu que c'était pas bien, donc on refait. » Ok, mais pourquoi c'est pas bien? Et surtout, est-ce que sur toi, c'est ok ou pas?
Alors, je voulais rebondir là sur ce que tu as dit. Il y a deux choses que je voulais dire. La première, c'était, après tu pourras me dire si je me trompe ou pas, mais c'est que souvent, les gens ils vont arrêter, par exemple, le gluten pendant un certain temps. Et le fameux test, c'est d'arrêter et de reprendre. Et quand tu reprends, bah, ça t'éclate le bide et tout. Sauf que ton microbiote, il évolue et il s'adapte à ce que tu manges. Donc, si tu arrêtes de lui donner quelque chose, bah, en fait, tu n'as plus ce qu'il faut pour les enzymes digestives pour l'accepter. Et du coup, ça va faire une réaction et te dire, ah, bah, finalement, je suis intolérant au gluten. Alors que ce qui t'a mené à cette intolérance, c'est le fait d'avoir arrêté. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas?
Alors, je suis complètement d'accord. Tu l'as d'ailleurs très, très bien résumé. Je n'aurais pas pu mieux le résumer que toi. Alors, le gluten, pour info, c'est pas foufou non plus. Hein. Et puis surtout, avec cette industrialisation au niveau de l'alimentation ultra transformée, c'est pas foufou. Mais mieux vaut le réduire parce qu'après, ça veut dire qu'on devient vraiment intolérant. Donc, on peut le réduire. On peut mieux choisir ses aliments, Le gluten, globalement, on le retrouve dans le pain, dans les farines blanches transformées. Choisir d'autres farines plutôt que de couper tout un groupe d'aliments. Moi, j'aime pas ça. Mieux vaut le consommer de façon moindre pour que si un jour j'ai une sortie au resto avec des potes, et puis merde, j'ai envie de me faire plaisir, il me donne envie ce bout de pain ou quoi d'autre, ben, que derrière, je sois pas dans le mal toute la nuit à avoir mal au ventre.
Ouais.
Mais ça, après, c'est des prismes. Tu sais, je le disais encore tout à l'heure, j'avais un élève là en tutorat, il faisait de la formation, je fais des rendez-vous de tutorat et je lui expliquais ça. Il y a autant de plans alimentaires que de nutritionnistes. Je trouve seulement dommage qu'on rende la nutrition si compliquée et qu'on oublie une chose, c'est que ça part de l'humain. Et on est 7 milliards d'individus. Alors, je ne dis pas qu'il y a 7 milliards de diètes. Bien sûr, il y a des grandes règles. Mais on oublie l'adaptation. Et tu vois, je te disais tout à l'heure, les athlètes, c'est des machines et un peu du bétail parfois. Et moi, j'aime recentrer sur... Avant d'être un athlète, c'est un être humain. Et j'aime recentrer sur ça.
Ouais. OK. Deuxième point donc, que je voulais commenter par rapport à ce que tu as dit, ça m'a fait penser, tu parlais d'aliments plaisir. Cheat meal ou pas cheat meal? Alors, je sais que le terme, il y a des gens qui vont le décrier parce qu'ils vont dire ce mot de cheat, de tromper, c'est, voilà, c'est comme grosso modo, il y en a qui prennent l'analogie de si tu essaies d'arrêter de fumer, mais que tu t'autorises une fois par semaine à fumer, tu n'arriveras jamais à arrêter de fumer, en fait, tu vois. Donc, c'est quoi ta position sur ce fameux cheat meal? Parce que je sais que c'est un truc qui revient souvent. Ouais. Et qu'il y a de vrais experts, je trouve, respectés et respectables, qui ont des avis totalement différents là-dessus.
Ok. Alors, moi, je n'aime pas ce mot. Cheat meal, c'est le repas de triche, comme tu as dit. Ouais. Et pourquoi je n'aime pas ce mot? Parce que, c'est traduit par le fait que tout est permis, à volonté. Donc, quelqu'un qui a fait une semaine nickel, qui a épuré son système digestif, etc., il se retrouve avec tout un truc, tout un tas d'infos à traiter, plein de graisses saturées, tout ça. Parce que généralement, le cheat meal, c'est pas la salade César, hein, c'est pas ça, un cheat meal. On regarde pas les produits, on regarde pas les quantités. Donc, ça peut venir sur un aspect déjà purement macronutritionnel. Les quantités, les calories, ça peut te flinguer tout ton objectif. Encore une fois, moi, je suis pas avec monsieur et madame tout le monde. Hein. J'ai des objectifs chiffrés. Si le gars, je reprends l'exemple de 70 kilos, s'il doit être pesé à 70, c'est pas 70.100.
Ouais.
C'est 70. Sinon, le gars, comme il fait pas le poids, il doit laisser une partie de... Généralement, c'est ça qui est fait. Quand un adversaire ne fait pas le poids... celui qui a réussi peut refuser le combat, c'est rare parce qu'il y a de l'enjeu financier derrière. Généralement, ce qui est fait, c'est celui qui a raté le poids donne une partie de sa bourse
ou peut ne pas prétendre au titre si c'est un titre aussi.
Exactement, donc il y a des vrais enjeux derrière, donc on a tout intérêt à faire le poids. Donc vis-à-vis de la population avec laquelle je travaille, c'est pas terrible. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que on n'a pas abordé ce thème, mais dans les sports de combat, on a un combattant sur cinq, et ça, ce sont mes statistiques personnelles. Mais encore une fois, j'en ai eu pas mal, des athlètes. Un combattant sur cinq souffre de troubles du comportement alimentaire, ce qu'on appelle les TCA.
Je voulais t'en parler justement, parce que comme tu parlais de post-carrière, les gens qui prenaient du poids et tout, ça m'avait fait penser à ça, et tu vois, j'ai oublié de te le demander.
Le TCA, donc on a tous connu, soit sur soi-même, soit sur des gens qu'on connaît, l'effet yo-yo. Je prends du poids, je repère, je reprends un peu plus, je repère un peu plus, l'effet yo-yo. Ça peut induire donc des troubles du comportement alimentaire. Les plus connus sont l'anorexie et la boulimie. Dans les sports de combat, ce sont les deux autres qui sont les moins connus du grand public, qui sont l'hyperphagie. C'est le fait de manger énormément en plein de quantités. Mille, tu entends ? Déjà, tu vas me voir venir. Et un deuxième qui est l'orthorexie. L'orthorexie, c'est l'effet inverse. C'est de contrôler, de trop contrôler son alimentation.
Alors, petite anecdote, juste pour le fun. Je fais régulièrement avec l'équipe de mes coachs des repas au restaurant. La dernière fois, on a été dans un restaurant italien. Et à la fin, c'est moi qui les invite à chaque fois et tout. Et à la fin, la serveuse m'a dit « Mais vous faites quoi ?» Elle dit « J'ai jamais vu ça. » Elle dit « Ça fait des années que je suis dans la restauration. J'ai jamais vu des gens qui mangeaient autant. » Elle dit « Mais enfin, ils n'ont pas mangé depuis une semaine ou quoi ?» Je dis « Non, non, c'est tout le temps comme ça. »
Alors, l'hyperphagie, c'est rarement sur un repas, mais ça peut arriver. Mais des fois, ça peut durer sur plusieurs jours, donc très souvent après la pesée et après le combat, voire des semaines. C'est vraiment quand on a un rapport, on sait qu'on a... Même si on n'ose pas le dire aux autres, nous, on le sait qu'il y a de l'hyperphagie. Un combattant sur cinq, c'est énorme. Hein. Mmh. Les deux tiers, je le précise, sont des femmes. Elles sont plus touchées.
Ah ouais.
Donc, si on remet ça dans le prisme des sports de combat, toute la semaine, j'ai surveillé. Le week-end, c'est souvent le week-end, je relâche. Ça peut induire un trouble du comportement alimentaire, à savoir orthorexie et hyperphagie. Donc moi, c'est la raison pour laquelle je ne suis absolument pas fan. En revanche, je trouve, en parallèle, je trouve également extrêmement dommage de se mettre de l'alimentation plaisir que le week-end. Putain, je l'ai dit, on mange 3-4 fois par jour. Et moi, j'aime manger, hein. Moi, je suis d'origine italienne, Giornelli. Je suis d'une culture franco-italienne, les deux pays de la bouffe. Hein. Donc, et j'aime pas faire aux autres ce que j'aime pas qu'on me fasse. Donc, je me dis, ben moi, je suis gourmande, les athlètes aussi vont l'être. Donc, pourquoi ne mettre des repas plaisir qu'en fin de semaine? Donc moi, j'essaye de ponctuer ça régulièrement. Voilà. Et très souvent, je pose la question, enfin, c'est pas très souvent, c'est à chaque fois, en consultation, je dis, bon, écoute, toi, tu te connais. Est-ce que tu préfères que je te mette un repas plaisir un petit peu régulièrement? Quand tu as le produit plaisir ou les produits plaisir, tu vas pas savoir te contrôler. Là, il va me répondre avec le plus d'honnêteté possible. De toute façon, il n'a pas intérêt à leurrer le truc, parce que c'est pour lui que je bosse, c'est pas pour moi. Donc. Et en fonction de ça, je vais ajuster. Mais voilà.
Surtout que moi, tu parlais que c'est souvent le week-end et c'est effectivement ce qui se passe la plupart du temps. Et j'avais vu que, bah, quitte à se faire, on va dire, moi je vois des gens, notamment dans la musculation, qui vont te parler de jours plus hauts caloriquement et d'autres plus bas caloriquement. Et souvent, on te dit, bah, quand tu vas monter un peu caloriquement et être plus sur les trucs plaisir, c'est mieux de le faire autour de grosses séances d'entraînement, tu vois, plutôt que des jours off, tu vois.
Complètement.
Souvent, bah, en pratique, ce qui se passe, c'est que c'est le week-end où tu te reposes et tout, où tu bouffes le plus. Donc, ça fait encore un effet encore pire. Et c'est vrai que tu peux ruiner une semaine
d'effort, de diète,
en une journée ou parfois en un repas, quoi.
C'est très juste. Après, il faut voir aussi le type de cheat, parce que donner beaucoup de calories, ok, mais très souvent, elles sont accompagnées de graisses et on va pas être sur les oméga 3, les oméga 6, hein, on va plutôt être sur les graisses bien transformées, bien les frites, la mayo, les fritures, les kebabs, enfin voilà, on va plutôt être sur ce type de graisses. Et là, encore une fois, aux abords d'une séance, mais quand je dis aux abords, enfin dans les heures, hein, c'est pas aux minutes près, mais aux heures près, avant une séance, c'est pas foufou ouais. Non plus, quoi.
En post-workout, ça passe
à la rigueur. Mais encore une fois, moi, mon credo, ça va plutôt être pourquoi se limiter juste à ce moment-là? Pourquoi pas en mettre plus souvent?
Parce que quand même, dans la muscu, il y a ce fameux... Enfin, pour moi, c'est un mythe post-workout, tu peux manger ce que tu veux, ça ne te fera pas prendre de gras.
Oui, bien sûr.
C'est magique,
puis on les voit, hein, bien sûr. Il faut bien se rappeler aussi une chose, c'est qu'en muscu... Moi, je ne travaille qu'avec des sujets, des athlètes naturels. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai pas dit grand-chose, mais j'ai quand même tout dit. En muscu, vraiment en body fitness, etc. Pour qu'on ait des compétitions en naturel et non naturel, déjà, on a tout compris, tu vois. C'est voilà.
Ouais.
Mais non. Tu peux pas, si tu veux surveiller ton poids, à un moment donné, je disais, il peut y avoir autant de plans alimentaires que de nutritionnistes, mais de la même façon qu'on a tous le même os ici, de la même façon que si on veut perdre du poids, la seule chose à faire, c'est du déficit calorique. Il n'y a pas de magie, c'est du déficit. Après, tu peux perdre du poids de façon sauvage en mangeant que de la merde, ou tu peux manger... Pardon, j'ai dit un gros mot. Où tu peux manger de façon saine. Et là, c'est encore une fois, c'est pour ça que j'adore l'analogie à la voiture. Ton parcours, tu vas le faire. Tes 400 km, tu vas les faire. Maintenant, il y a un type d'essence qui va encrasser ton moteur. Derrière, tu vas devoir vidanger, faire plein de manipulations. Et d'autres où tu auras une essence, tout sera parfait. Donc, voilà. Mais quoi qu'il en soit... La chose à surveiller quand tu es en perte de poids, c'est le déficit calorique. À partir du moment où tu manges à volonté, sans te soucier des calories, bah, tu prends le risque, en tout cas, de t'éloigner de ton objectif.
Ouais. Après, tu vois, moi, il y a un aspect, je voulais savoir si tu abordes ça ou pas. À titre personnel, ce que je trouve le plus dur dans... alors, je vais parler plus de perte de poids ou on peut parler de la nutrition, au final, c'est l'aspect psychologique. C'est-à-dire que je trouve ça plus dur de tenir un plan que de trouver ce plan. C'est-à-dire de savoir quoi manger pour perdre du poids ou ce que tu devrais manger pour être bien, en bonne santé et tout, mais de réussir à le faire. Pour moi, en tout cas, c'est ça le plus gros challenge, tu vois. Et les athlètes que tu as, c'est certainement un peu différent parce qu'eux, ils ont des échéances, c'est des pros, donc il y a un vrai objectif derrière qui fait que souvent tu te poses moins la question. Mais est-ce que c'est quand même quelque chose que tu abordes, tu vois, l'aspect mental de OK, bah, faut que je sois en restriction calorique quand même un minimum, faut que je mange ce qu'on me dit. Et il y a des choses que j'ai envie de manger des pizzas et des Häagen-Dazs et je peux pas. Comment je fais pour résister à ça, quoi?
Bah justement, c'est ce que je dis.
Les aliments plaisir, quoi.
Ouais, ils peuvent en avoir.
Mais est-ce que ça va quand même jusqu'à le repas, une quatre fromages avec un pot d'Haagen-Dazs derrière, quoi?
Alors, peut-être pas jusque-là. D'ailleurs, dans les pizzas, je leur dis quitte à choisir, éviter les quatre fromages et ce, avec tout ce qui est aliments composites type merguez. Ça, c'est vrai. Mais tu peux avoir d'excellentes pizzas sans que ce soit une quatre fromages.
Avec le
Mais pour
gorgonzola, quand
répondre.
même, tes origines italiennes, elles peuvent pas te dire de pas manger de gorgonzola quand même sur la pizza, non?
Ouais, si.
Ah, ouais,
Moi,
si.
c'est la pizza marguerite, la margarita.
La base,
Ouais, la base,
tomate,
simple,
ouais.
efficace. Non, mais pour répondre plus sérieusement à ta question, la dimension psychologique est archi importante, d'où le fait d'intégrer ces aliments plaisir régulièrement. Moi, dans ma façon de travailler, je vais toujours essayer de proposer au maximum une variété de produits. Je vais jamais dire carottes, enfin 100 grammes de carottes ou 100 grammes de brocolis. C'est d'une tristesse incroyable, mais je vais dire légumes. Déjà, s'il mange les légumes, c'est bien. Déjà, s'il le fait, après, je vais l'orienter sur un type de cuisson, un type pour que ce soit plus efficient. Mais si, s'il me le fait, par exemple, si ces légumes, il me les fait et qu'il mélange des tomates et qu'il me met ça par-dessus son riz ou ses pâtes pour se faire une sorte de sauce tomate, bah c'est OK. Tu vois? Donc, la dimension psychologique, oui, elle est importante. Dans ça, c'est d'apporter de la souplesse. Et très souvent, enfin encore une fois, je dis très souvent, mais c'est à chaque fois, je leur dis, rien n'est figé. Rien n'est figé. Il y a un produit, tu peux me dire, OK, Cécile, ça j'aime bien, j'aimerais bien l'avoir un peu plus souvent. Est-ce que c'est OK? Ou au contraire, ça je le vois trop souvent, est-ce qu'on peut le retirer? Et ça, c'est ce qu'on étudie ensemble lors des rendez-vous de suivi. On fait le point. Et on voit, bah, en fait, si tu veux, on ajuste au fur et à mesure nos rouages.
Ouais. Et est-ce que tu vas regarder un peu Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que ça peut demander des examens sanguins et tout, mais est-ce que tu vas regarder justement les intolérances, les maladies, tout ça? Tu vois, moi, je sais que, à titre perso, à, j'allais quoi, peut-être 38, même pas, peut-être à 40 ans, je me suis rendu compte que j'étais cœliaque, en fait.
Oui.
J'ai mis long, enfin, j'ai passé ma vie, tu vois, à manger les choses qui me convenaient pas forcément et à pas forcément toujours écouter mon corps et les. Et ce qui se passait, tu vois, mais est-ce que c'est un truc, toi, auquel tu essayes de sensibiliser les gens ou de faire un peu un historique là-dessus?
Oui, alors bien entendu, on peut avoir des athlètes qui ont. Alors, qu'est-ce qui revient assez souvent? C'est le diabète et les maladies, justement, tout ce qui est syndrome du côlon irritable
Ouais.
et intestin irritable. Au-delà, moi, je ne prends pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il faut reconnaître aussi ses spécialités. Moi, ça fait 10 ans que je ne fais que de la performance. J'ai étudié ça, mais j'ai jamais eu à le pratiquer. Et je pense qu'il vaut mieux quand c'est comme ça. Et en plus, là, on est. Alors, la performance, c'est beau, mais encore une fois, avant d'être un athlète, c'est un être humain et sa santé passe avant tout. Donc, je préfère quand c'est comme ça, passer la main à quelqu'un bah, qui l'a étudié comme moi, mais qui l'a mis en pratique dès le départ et qui va avoir tous les outils nécessaires pour une meilleure prise en charge, tout simplement.
Ouais, ok. Et alors attends, j'ai oublié la question suivante que j'avais à te poser. On parlait des intolérances. Il y avait un autre truc que je voulais te demander et j'ai perdu le fil. Bon, c'est pas grave, on va essayer de trouver un autre sujet en attendant jusqu'à ce que ça me revienne. Tu peux me parler de cette fameuse histoire où Cédric Doumbé avait presque 18 kilos à perdre pour un combat?
Oui, je peux. Je peux. On est en 2018 ou 2019. Bref, ça fait un an que je bosse avec lui. Et il part aux États-Unis faire un camp d'entraînement. Donc à l'époque, Cédric est déjà multiple champion du Glory en K1. Désormais, je l'ai accompagné sur sa transition au MMA. Mais à l'époque, donc, il n'est qu'en mode K1. Mais il sait qu'il a envie d'aller s'essayer et que sa suite de carrière sera dans le MMA. Donc il va faire un camp d'entraînement aux États-Unis. Donc bon, la nourriture n'est pas fofolle, mais surtout, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de luttes. Donc, quand on mixe la lutte encore une fois, sport de préhension qui s'apparente, bah, comme de la prise de masse. Clairement, hein, en prépa physique, on va ça va me faire la même réponse au niveau musculaire. Donc, il m'a fait une prise de masse musculaire en flèche et il m'a fait une prise de gras en flèche. Et donc, il me dit, Cécile, voilà, j'ai un combat. Je dis, bah, ok, donc, on avait déjà bossé ensemble. Et là, il me donne son poids. Je fais, oh. Il m'a envoyé une photo. Je ne l'ai pas reconnue. Une boule. En plus, il avait la barbe. Il avait mal taillé sa barbe et tout. Je me rappelle, j'ai dit, mais Cédric, c'est pas possible. Et on avait moins de 6 semaines.
Comment t'arrives à... Ouais, c'est que le combat n'était pas prévu ou c'est lui qui s'y prend trop tard?
Est-ce que le combat n'était pas prévu? J'ai pas l'info.
Ouais.
J'ai pas l'info. C'est rare qu'ils s'y prennent trop tard. Ouais. J'ai plus le souvenir là. Bonne question, mais j'ai plus le souvenir. Je pense, le connaissant, alors c'est un fanfaron, hein, sur les réseaux. J'ai rarement vu aussi sérieux en prépa physique et en diète. Et je l'ai toujours dit. Rarement vu. Généralement, les femmes sont les plus sérieuses. Mais Cédric, lui et Jimmy Vienno, de toute façon, ils font partie de mes athlètes chouchous, j'en parle souvent. Carré, incroyable. Alors, des personnalités très différentes, mais sur la façon de communiquer. Mais Cédric, bon, je vais peut-être casser son image, mais très sérieux, très très rigoureux. Bref, donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'il s'y soit pris trop tard, hein. Mais toujours est-il que, dans les faits, ben, on a moins de 6 semaines, parce que c'est pas parce qu'il me le dit que moi je fais le plan alimentaire comme ça au pied levé. Enfin, c'est toute une analyse en amont. Moi, ben, il faut que je réfléchisse un petit peu aussi. Ça m'arrive.
T'as pas le droit de lui dire, écoute, non, là, c'est pas possible, quoi.
Non, je dirais, ben, déjà, je peux pas. Je peux pas. La seule fois où je peux dire ça, c'est quand un athlète, ça m'est déjà arrivé, hein, a fait un cutting il y a pas longtemps. Hein. Quelqu'un m'appelle un vendredi soir, quasiment minuit. Je ne réponds jamais. Et là, je pense que la vie a voulu que je sauve la vie, justement. Le gars était en train de mourir, clairement. Donc, je le connaissais pas. Il avait eu mes coordonnées par Jimmy Vienno, justement, et son manager. Et là, j'interviens en disant, non, ça, c'est trop... Là, le risque est trop important. Ça m'est arrivé 2 fois de dire à l'athlète, on arrête, 2 fois en 10 ans. Mais 6 semaines à l'avance, non, il faut essayer.
Ouais.
Faut essayer. Ouais. Et si on n'y arrive pas, ben, on verra. Mais on y va, on essaye. Et
pour le grand public, pour les combattants, même pour les combattants, je pense que c'est beaucoup, hein, mais pour le grand public, c'est juste de la, folie de perdre 17 kilos en 1 mois et demi, quoi.
Ah ben, c'est de la... Oui. Et ce qui est le plus fou, c'est que on a fait que 300 grammes en bain. Donc, il y a 17,9 kilos précisément à perdre. Et il a fait 17,6 kilos uniquement sur sa masse grasse. Pour vous dire la performance quand même qui a été réalisée mentalement, ça a dû être très, très dur. Moi, j'ai travaillé conjointement avec Valentino Gargiulio, la mafia italienne autour de Cédric. Valentino, qui est un excellent préparateur physique. On s'est rencontrés sur le projet de Cédric, justement. Et je vante toujours son travail. Je suis très admirative de son travail, très intelligent, sa façon de créer ses prépas physiques. Et on a vraiment, tous les deux, été autour de Cédric, quoi.
Alors, comment,
donc, il fait 300 grammes de bain et le résultat est là puisqu'il gagne par KO au premier round.
Alors, comment tu fais? Donc, ça veut dire, quand tu dis 300 grammes de bain, ça veut dire que le reste, ça a été en régime classique, quoi.
Exact.
Comment tu fais?
Je suis la nutritionniste des champions, qu'est-ce que tu veux? Ben, je calcule. Alors, comment je fais?
C'est très long
d'expliquer mon métier comme ça en quelques minutes. Mon job, c'est de quantifier au plus près les besoins des athlètes. Donc là, aujourd'hui, je ne fais que de la nutrition sportive, mais je l'ai dit, j'ai passé un BPJEPS à l'INSEP, donc un diplôme dans le sport. Donc moi, je sais lire une préparation physique.
Ouais.
Donc je pars de la prépa physique de l'athlète. Ce qui me permet de quantifier, de traduire ça, si tu veux, en langage nutritionnel. il a besoin à tel moment de tel type d'aliment. Donc déjà, j'ai le type d'aliment. En deuxième lecture, j'ai la quantité. Et en troisième lecture, j'essaye de caler ça en fonction de ce qu'il aime.
Ouais.
Parce qu'il y a ça aussi. Si on reprend l'exemple de Cédric, il m'a refait un peu la même l'année dernière. Parce qu'il est parti en Irlande. Mais là, c'était plus compliqué parce qu'il n'avait pas à disposition la même offre qu'en France. En parallèle, à l'époque, il mangeait de tout. Depuis, il est de confession musulmane. Donc, au niveau de la viande, il mange halal. Donc, il y avait très peu de viande là-bas, halal. Donc, c'était très compliqué pour lui de s'alimenter. Donc voilà, il y a des troisièmes, des quatrièmes niveaux de lecture. Et là, vous expliquez ça, c'est pas que je veux pas. Il y a ma formation pour ça, je l'explique.
Non, mais tu vois, je me dis en plus, parce que tu dis, c'est à moi d'estimer les besoins et tout ça, mais si tu veux, le déficit calorique que tu dois créer, mais en même temps, réussir à prendre en compte la dépense énergétique de sa prépa physique, c'est hyper... Après, tu vas me dire, c'est mon métier, mais je veux dire, c'est hyper dur d'évaluer. Il faut vraiment déjà que tu travailles en partenariat avec le préparateur physique pour savoir ce qu'il va lui faire faire, parce que ça peut être pas du simple au double, mais presque en termes de prépa physique, en fonction de l'effort que tu fais, des séances que tu fais, le nombre de séances, leur durée, tout ça. C'est hyper compliqué quoi, de trouver ce déficit.
Alors, je ne les ai pas mises, mais maintenant, je suis toujours devant les ordinateurs sur mes trucs de calcul, normalement, j'ai mes lunettes. Oui, c'est pas simple, c'est pas pour rien aussi, c'est pas pour me vanter, mais qu'on vient me voir, c'est parce que j'ai développé cette expertise-là. Et pour peu que l'athlète veuille devenir végétarien, te garantir que mon cerveau parfois il chauffe quoi. Hein. Finalement c'est comme tout métier, il y a des parts difficiles. Effectivement, moi c'est la partie complexe de mon métier, mais qui est l'essence même du métier.
Ouais.
Le partenariat avec l'entraîneur, le préparateur physique, il est très important. Quand je prends un athlète en charge, à chaque fois, je lui pose la question, quelles sont les coordonnées de ton entraîneur et ton préparateur physique? Alors, des fois, ils n'en ont pas, ou c'est soit l'un, soit l'autre. Mais pour me présenter, parce que moi, je ne peux pas être tout le temps là en séance avec les athlètes.
Ouais.
Donc, pour que ce soit mes yeux, il faut savoir que les athlètes, et c'est normal, avec l'ego, il y a des séances où ils ne sont pas au top.
Ouais.
Et avec l'ego, ils ne vont pas forcément le reconnaître. Pour peu que, ils soient en plein régime, et en régime... c'est pas les plus fun, hein. Ils sont énervés, ils sont de mauvaise humeur, ils ont mauvaise haleine, parce que état de cétose, donc ça développe une haleine un peu particulière. Enfin, c'est pas l'état idéal pour les athlètes. Donc, pour peu que ça génère un manque de communication avec moi, le préparateur physique qui est sur place va me dire, Cécile, là, je sens l'athlète un peu fatigué, peut-être qu'il faut bouger les curseurs. Donc, tu sais, on dit toujours, on est sur des sports individuels, mais c'est un travail d'équipe. Je me considère comme un membre du staff, voilà.
Carrément, ouais. Ok. Alors, tu vois, j'ai retrouvé, par rapport à ce que tu as dit, je suis en train de noter pour ne pas oublier justement les différents sujets que je voulais encore aborder avec toi. Les protéines. Donc, on entend beaucoup de choses là-dessus. Alors, il y a les fameux mythes, ça va abîmer le rein si tu manges trop de protéines et tout ça, les reins, pardon. C'est quoi ta position sur les protéines, la nécessité d'en prendre, les quantités? Est-ce que, de ton expérience, les athlètes en consomment suffisamment? Est-ce qu'on peut en consommer suffisamment en mangeant des aliments ou faut automatiquement se complémenter? Voilà.
Alors, j'imagine quand tu dis protéines, c'est tout ce qui est whey et BCA essentiellement?
Non, même dans l'alimentation, l'apport en protéines d'une manière générale. Quoi.
Ok. Alors, moi, ce n'est pas que je n'ai pas d'avis, c'est que je me base sur des faits. J'ai un esprit assez cartésien pour ça. On sait qu'au-delà d'un certain grammage, donc en moyenne 2,5 grammes de protéines par jour et par poids de corps, le corps ne les retient pas. Ce n'est pas que je vais faire un cours, mais c'est important de rappeler qui fait quoi. Je reprends ma voiture. La protéine, c'est la carrosserie de la voiture. Ça sert à faire la structure, les muscles, même dans les hormones, on a des protéines, mais ça vient faire la structure. Les lipides, c'est tout ce qui permet. Alors, c'est de l'énergie, c'est un type d'essence, mais c'est ce qui permet aussi que tous les rouages fonctionnent bien. J'ai des vitamines qui ne peuvent être diluées. Enfin, bon, ouais, on va dire diluées, mais c'est, le mot est grossier, mais c'est ça.
Absorbées, quoi.
Que dans certaines graisses. Okay. Et ensuite, j'ai les glucides, donc c'est l'essence pour que la voiture avance. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais en tout début d'échange, le corps, au départ, pour utiliser son énergie, pour avancer, il va d'abord utiliser les sucres, en deuxième intention, les lipides. Et c'est si vraiment je suis en carence nutritionnelle, il va utiliser sa protéine. C'est-à-dire qu'il va venir phagocyter sa propre structure pour pouvoir fournir de l'énergie.
Se cannibaliser en quelque sorte.
Comment ?
Se cannibaliser en quelque sorte.
Exactement, c'est ça. D'où le fait qu'on puisse perdre en masse musculaire. C'est ça qui va se passer aussi.
Parce que ça, c'est un truc, tu vois, un petit aparté, mais je sais, j'arrive jamais à me... Puis ça n'a pas d'intérêt que je cite la marque, mais il y avait une marque... de perte de poids orientée pour les femmes. Je ne sais plus ce que c'était. J'avais vu les pubs, tu avais des avant-après. Et en fait, tu voyais clairement que oui, elles avaient perdu du poids, mais aussi qu'elles avaient zéro muscle. Et dans la perte de poids, alors moi, je ne te parle pas d'athlète, là, mais il faut aller regarder qu'est-ce que tu perds aussi. Et
exactement.
Parfois, souvent, ça améliore quand même certains marqueurs de santé et tout de perdre du poids, mais... quand tu as perdu trop de masse musculaire, ça ne va quand même pas te mettre dans les meilleures conditions.
Non, puis ça peut générer de la fatigue. La fameuse composition corporelle dont je te parlais. Donc maintenant, pour en revenir aux protéines, c'est pour ça que j'expliquais qu'au-delà de 2,5 grammes en moyenne hein, par jour et par poids de corps, l'organisme les élimine automatiquement. Pourquoi ? Parce que quand ta carrosserie, elle est faite, j'ai pas un muscle qui va pousser, si tu veux, j'en ai pas un nouveau qui va sortir. Si ta carrosserie, elle est faite, et comme l'organisme ne le considère pas comme une source d'énergie, du coup, il va l'éliminer. Et à contrario, les glucides, les lipides, c'est des sources d'énergie, c'est ce qui fait qu'il va les stocker. Il va gonfler son réservoir.
Mais ça, donc, c'est la limite, on va dire, d'utilisation. Mais c'est quoi la recommandation plutôt ? C'est-à-dire au-delà de 2,5, tu sais que ça sert à rien.
Là,
est-ce que ça veut dire que c'est ça ? Est-ce que ça veut dire que c'est 2,5 la recommandation parce que là ça sert à rien, qu'il faut être au max ? Ou c'est quoi la recommandation ?
Ça dépend du besoin. La recommandation sur Monsieur et Madame Tout le Monde qui fait pas forcément de sport. Je vais faire différemment. Le minimum c'est 0,8 grammes par jour par poids de corps. Le maximum, enfin au-delà, c'est éliminé, en moyenne 2,5. Mais il est bien évident que une personne comme moi, alors moi j'ai bientôt 40 ans, je m'entraîne une à deux fois par semaine et voilà, je fais 65 kilos, je vais pas du tout avoir le même besoin que quelqu'un qui s'entraîne 4-5 fois par semaine et qui en fait 90 et qui est un homme.
Ouais.
Donc c'est la raison pour laquelle ça, faut que ce soit personnalisé. C'est personnalisé selon ton besoin, ta dépense énergétique, ton sexe aussi. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui font que ça évolue. Donc moi, si tu veux la protéine, ce qui est important, c'est de couvrir les besoins. Et on va ajouter des compléments. J'ai rien contre les compléments alimentaires, mais je suis pas une pro complément alimentaire. C'est est-ce que j'en ai besoin pour couvrir mes besoins, oui ou non. Si j'en ai pas besoin. Bon, j'ai plutôt tendance à privilégier une alimentation naturelle avec mastication, avec du plaisir, tu vois. Si, pour peu que t'aies pas de contraintes éthiques, au niveau de l'ingestion des produits type viande, poisson, et que c'est un produit plaisir de te manger ta pièce de viande, vas-y, tu vois, ça aide la protéine. En revanche, j'ai des athlètes où l'alimentation seule va pas suffire, ou alors ça veut dire des assiettes énormes, trop compliquées. Tu vois ? Donc là, on va utiliser des compléments alimentaires. Là, ça a du sens. Maintenant, tu m'as pas posé la question, mais je vais anticiper. On parle souvent de fenêtre métabolique, fenêtre anabolique. C'est peut-être les personnes qui nous regardent en ont déjà entendu parler. C'est on conseille, et même moi, j'ai fait ce conseil pendant très longtemps, de recommander la prise de protéines dans les 30 minutes qui suivaient un effort avec forte dégradation musculaire. encore une fois, forte dégradation musculaire, donc entraînement de musculation lourde, sparring, voilà, sport de préhension, etc. Pourquoi on conseille ça? Parce que pendant cette fenêtre, alors 30, 40 minutes à peu près, le corps va être beaucoup plus ouvert, on va le formuler comme ça, réceptif plutôt, et va assimiler davantage tout ce qu'on lui donne. Et comme on va utiliser un produit sucré, je vais avoir un passage d'insuline dans le sang. Alors, je ne veux pas être trop technique non plus.
Ouais.
Si j'ai un produit sucré, mon taux de sucre dans le sang, il monte. Et donc, j'ai une hormone qui vient réguler ce taux de sucre qu'on appelle la glycémie. Donc, cette hormone, c'est l'insuline, elle va venir réguler. Et en fait, ma protéine va profiter du passage du sucre dans le sang pour être mieux assimilée. Ça, c'est le principe. Donc, la fenêtre anabolique, si tu veux, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, 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 dont on a beaucoup entendu parler. Maintenant, on y revient un petit peu. Ça a du sens pour les athlètes comme ceux dont je m'occupe qui s'entraînent deux fois par jour. Parce que j'ai cette notion de timing. Maintenant, pour une personne qui ne s'entraîne qu'une fois par jour, et ce, même si c'est tous les jours, du moment que mon besoin protéique, il est couvert sur l'ensemble de la journée, ça suffit. Donc nos stress, si vous n'avez pas pu prendre votre consommation de protéines dans la demi-heure qui suit l'entraînement, du moment que vous n'avez eu qu'un seul entraînement dans la journée, ça c'est important de le préciser. Okay. Une fameuse légende justement.
Ouais, tu vois, on en a encore quelques-unes, je pense à attaquer comme ça. Et on voit quand même que parfois, enfin, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à avoir un apport protéique optimal. Il y a un podcast que j'aime bien, c'est Gabrielle Lyon, c'est une femme qui n'est pas tout jeune et tout, mais qui est spécialisée, qui faisait de la recherche aussi sur les protéines et tout, donc c'est son truc, elle, et elle a un truc vraiment, pour elle, il faut consommer plus de protéines, il faut faire du muscle, et c'est ça qui te protège aussi contre le vieillissement et tout ça,
oui.
De maintenir une masse musculaire, et donc, comme tu disais, hein, protéines, c'est les blocs constructeurs du corps, et donc il faut avoir un apport suffisant. Et c'est vrai que si tu es dans une logique de un peu de perte de poids ou en tout cas de maintien de poids, ça peut être dur d'avoir un apport protéique suffisant sans dépasser ses calories, tu vois.
C'est pas la plus grande difficulté, en tout cas pour ma part et ceux avec lesquels je travaille. Ouais. La plus grande difficulté va plutôt être sur le niveau des lipides, parce que les lipides, on évite de dépasser 1 gramme par jour et pas par poids de corps, donc voilà, c'est vite atteint. Les glucides aussi, mais les protéines, c'est plutôt ok. Oui, je pense savoir pourquoi. On a tendance à majorer nos besoins, il y a ça aussi. Par exemple, si tu prends un filet de poulet dans le commerce, généralement, il va tourner autour de 180, 200 grammes. Enfin, des vrais filets, hein, je parle.
Ouais.
En fait, on n'a pas besoin d'autant. On a besoin peut-être 120 grammes. Enfin, tu vois, et du coup, tu as l'impression que tu as une portion petite alors que ça suffit amplement.
Mmh.
Mais les protéines, après, ça a aussi une autre fonction, c'est celle de rassasier.
Non, mais tu vois, par exemple, dans l'exemple du blanc de poulet, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir peut-être 20 grammes, 25 grammes de protéines, peut-être 30 grammes max.
Oui, mais il ne faut pas sous-estimer.
Si tu manges ça 3 fois par jour, ça veut dire que déjà, tu prends ton filet de poulet le matin. Bon, parce que moi, je mange salé le matin, ce n'est pas un problème. Mais je veux dire, 3 fois 30 dans la journée, tu es à 90 grammes. Si tu es un homme de 75 kilos qui s'entraîne 2 fois par jour, ce n'est pas assez, quoi.
Oui, mais c'est important de ne pas oublier les autres sources. D'ailleurs, je voulais te dire ça tout à l'heure sur l'hydratation, les personnes qui boivent pas assez. Des fois, elles peuvent boire 2 verres d'eau par jour, mais parce qu'elles ont une alimentation fortement végétalisée, il y a beaucoup d'eau dans les végétaux. Dans le yaourt, dans les fromages blancs, dans tous les fromages, dans tous les produits laitiers, il y a des protéines. Une petite astuce, plus un fromage il est dur, plus il est protéiné. Bon, plus il est gras aussi. Dans les fromages, protéines et graisses, ça va ensemble. C'est proportionnel. Ouais. Donc, plus il a une pâte dure, plus il est protéiné et gras. Plus il a une pâte molle, liquide, donc les fromages frais, moins il est protéiné, mais moins il est gras aussi. Donc, on va jouer avec ces trucs-là. Mais donc, tu vas avoir des protéines à ce niveau-là aussi. Tu vas aussi avoir beaucoup de protéines végétales. Le riz, il y a des protéines. Le pain, il y a des protéines. Donc, en fait, on sous-estime cet apport protéique-là.
D'accord. Ok, ça m'amène, alors tu avais parlé donc des compléments concernant tout ce qui est whey et tout, mais est-ce que sur les vitamines, les choses comme ça, tu considères que c'est quelque chose d'important ou pareil, tu préfères essayer de couvrir ces besoins-là par l'alimentation?
Alors, on essaye au maximum de les couvrir par l'alimentation, mais aujourd'hui, force est de constater que c'est impossible parce que on a une alimentation, même si on va chez le primeur d'à côté, qui fait tout bien, sans pesticides, etc., on a un appauvrissement des sols au niveau minéral. Et donc, tout ce qui va pousser de ces sols-là vont être beaucoup moins riches en vitamines qu'il y a quelques années. Il y avait un reportage qui avait été fait par c'est Lise ou Élise Lucet sur France 2. Ouais. Un reportage extrêmement probant. C'était un envoyé spécial. Et elle montrait justement avec des études, et j'avais déjà pris connaissance de ces études, mais son reportage était tellement bien fait. Ça montre justement qu'une tomate d'il y a 50, 60 ans, d'un point de vue micronutritionnel, donc quand on dit micronutritionnel, c'est par opposition à macronutritionnel. Macro, c'est il y a des calories, protéines, glucides et lipides, il y a des calories. Tandis que micronutritionnel, c'est fibres, vitamines, minéraux, il n'y a pas de calories. Mais il y a énormément d'intérêt quand même. Hein. Et donc, ça nous montrait combien, justement, tous les fruits et légumes ont perdu en minéraux. Donc oui, ça a beaucoup de sens de se compléter en minéraux. Ça, c'est certain.
Ok. Okay. Sujet un peu touchy, vegan, végétarien. Tu l'as mentionné quelques fois. J'ai cru comprendre que quand tu avais quelqu'un qui était végétarien ou vegan, ça compliquait quand même un peu ton ouais. travail. Est-ce que tu as un avis sur ça? Alors, je sais que c'est pas évident parce que tu peux vite te mettre des gens à dos et tout, mais qu'est-ce que tu penses d'être vegan, végétarien et sportif, par exemple?
Alors, moi, j'ai pas d'avis. Ouais. Chacun fait sa vie et tout le monde se porte très bien. Tant que moi, on me l'impose pas, moi, j'aime manger de la viande. Mmh. Voilà, tant qu'on me l'impose pas. Et en revanche, c'est ce que je disais en amont, je respecte absolument tout. La seule chose, c'est qu'effectivement, c'est plus de traitement pour moi et je vais expliquer. Une personne qui ne mange pas de viande, de poisson, voire certains pas d'œufs, donc aucune protéine d'origine animale, et donc généralement il n'y a pas de produits laitiers non plus.
C'est ça.
Voilà, parce que ça découle d'œufs. Du coup, j'ai besoin de cet apport protéique. Cet apport protéique, je vais donc l'apporter via des sources végétales, principalement les féculents et les légumineuses. Seulement, ces deux produits-là ont un taux de glucides très important.
Une densité calorique élevée.
Exactement.
Aussi.
Donc, quand je dois diminuer mon apport calorique, et notamment par les glucides, mais qu'il faut que je majore pour avoir mes protéines, c'est vrai que c'est un casse-tête, je passe beaucoup plus de temps, mais encore une fois, c'est pour ça qu'on vient me voir. Donc, moi, après, je suis beaucoup sur l'expérimentation. Moi, si j'ai un athlète qui se sent mieux dans sa tête parce que ça correspond à ses valeurs, à qui il est, qui suis-je pour l'en empêcher, tu vois? Surtout si les résultats sont là.
Ok.
S'il me disait de faire un truc complètement fou, qui le rendrait malade, qui le rendrait là, qui serait délétère pour sa santé, bien sûr, je tiendrais un autre discours. Mais là, c'est pas un choix délétère pour la santé. Et sur la performance, on peut y arriver. C'est juste mon cerveau qui fume plus, quoi.
Et on va faire le grand écart. Il y a ce qui a gagné pas mal en popularité ces dernières années, c'est le carnivore diet, donc où tu manges uniquement de la viande rouge presque, et parfois il y en a qui vont rajouter du beurre ou du miel ou des choses comme ça. Si tu as un athlète qui arrive et qui dit « moi je suis carnivore
», je vais lui expliquer ça, ils sont où tes glucides? Ils sont où tes glucides? Ça va pas être juste le miel, et puis les graisses qui vont être avec, ça va être souvent des graisses saturées, parce que tout ce qui est graisse animale, c'est graisse saturée. Donc c'est l'exemple que je disais. Déjà, sa voiture, elle va pas avancer bien loin. Alors il aura une belle carrosserie, hein. On sera bien en termes de carrosserie, mais il va pas avancer bien loin. Et surtout, faudra voir combien l'organisme sera encrassé derrière, parce que ça, on va avoir des taux dans les analyses sanguines, des taux de carnitine qui sont très importants, un gros traitement au niveau rénal. Donc là, non, ça je
ouais. Et je sais qu'il y en a qui, du coup, le compromis qu'ils font, c'est viande, fruits. Comme ça, ils ont un apport glucidique par les fruits. Alors, l'avantage que ça a, c'est que du coup, de facto, c'est pas d'aliments transformés.
Oui, certes, on a un côté brut, mais je trouve ça triste quand même de devoir se priver de groupes d'aliments. En tout cas, c'est vrai que c'est pas la paroisse où je prêche, quoi.
Si je termine le podcast juste par une question plus légère et qui est un peu en dehors de ça, est-ce que tu as récemment eu un coup de cœur pour quelque chose que tu voudrais nous partager, quel qu'il soit, c'est-à-dire je sais pas, un truc que tu aimes utiliser sur ton téléphone, une série, un film, quelque chose de dans la bouffe, une personne, voilà, un truc récent qui dit, tiens, je sais pas, tiens, ça c'est le truc que tu as envie de raconter à tes amis, tu vas dire, putain, il y a ça et tout en ce moment, je trouve ça trop bien.
Amusante cette question, tu vois. Du coup, le fait que tu aies évoqué le livre, dans la liste de ce que tu as dit, il y a un bouquin, j'aime beaucoup lire, et il y en a un qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Je trouve juste le titre incroyable, et le bouquin également est de toute beauté. Donc, L'art subtil de s'en foutre.
Super, je crois que ça te va pas mal.
Merci beaucoup en tout cas.
Et en tout cas, c'était cool. Merci pour la conversation. Et puis, de toute façon, je mettrai tous les liens et tout vers tes réseaux, ton site et tout ça. Et puis, bonne continuation et à très vite. Ciao.
À très vite. Merci. Au revoir.